Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1.
Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews et sur Europe 1. Comment désamorcer la grogne sociale liée à la flambée des prix du carburant ? 2 centimes de plus par litre rien que la semaine dernière. Le gouvernement penche plutôt pour un chèque carburant afin que la baisse des taxes évidemment ne soit pas mise en œuvre. Le pouvoir d'achat des Français est d'ores et déjà lourdement impacté par la hausse des tarifs du gaz et bientôt de l'électricité. On verra que l'exécutif peine à apporter une réponse rapide à une situation qui peut devenir rapidement explosive. Emmanuel Macron lance les états généraux de la justice en appuyant sur la lenteur des procédures qui exaspèrent à la fois les victimes, les policiers en gendarmes et les magistrats. L'idée, c'est de rétablir la confiance avec la justice. 68% des Français jugent la justice trop laxiste, selon un sondage CSA pour CNews. Une consultation en ligne sera organisée pour tous les citoyens qui le souhaitent sur le modèle du grand débat. Un rendez-vous qui intervient de façon bien tardive, à moins de 6 mois de la présidentielle. De son côté, Anne Hidalgo a lancé la police municipale de Paris, 154 agents pour la première promotion. Mais cette force municipale sera-t-elle en mesure de lutter contre l'insécurité grandissante dans la capitale, alors qu'elle est non armée ? C'est ce que l'on verra ce soir. Un week-end de campagne pour Éric Zemmour, qui était dans le sud et notamment à Béziers. Le maire de la ville, Robert Ménard, l'a exhorté, ainsi que Marine Le Pen, à faire une alliance avant le premier tour, un appel resté lettre morte. Éric Zemmour refuse toute idée d'union partisane. Enfin, alors que les cas de Covid remontent en flèche en Grande-Bretagne, la France enregistre elle aussi une hausse du nombre des contaminations, 35% d'augmentation en une semaine. Une hausse inquiétante, peut-être le signe que l'épidémie est en train de repartir dans notre pays. On débat de tous ces sujets d'actualité avec mes invités ce soir. Jean-Claude Dacier, consultant CNews, bonsoir à vous.
Bonsoir.
Merci d'être là. Gabrielle Cluzel, directrice de Boulevard Voltaire, bonsoir. Bonsoir. Nous sommes avec Najwa El-Haïté, bonsoir. Adjointe, bonsoir. Avocat, maire adjointe à Évry, c'est ça ?
C'est ça.
Et vice-présidente de Territoire de Progrès. Et nous sommes avec le commissaire David Lebars. Bonsoir,
bonsoir,
commissaire. Merci d'être avec nous. On va balayer tous ces sujets d'actualité, bien sûr, au cours de l'émission. Mais d'abord, ces menaces de mort. Deux professeurs d'un collège de Marseille ont reçu un courrier de menaces de mort. Ils l'ont reçu samedi. Ces menaces sont arrivées le jour de l'hommage national rendu à Samuel Paty. Le couple d'enseignants avait déjà reçu une photo de Samuel Paty. On va tout de suite faire un point avec Sandra Buisson du service police-justice de CNews. Bonsoir Sandra. Que sait-on exactement de ces menaces contre des professeurs ?
Oui, ce sont deux enseignants. L'un enseigne dans un collège, l'autre dans un lycée, qui ont été menacés à plusieurs reprises depuis le mois dernier. D'ailleurs, ils ont porté plainte en septembre suite aux menaces reçues. D'abord, une première menace reçue le 8 septembre. Ils reçoivent la photo de Samuel Paty. Ensuite, le 12 septembre, seulement quelques jours après, ils reçoivent une lettre où il est écrit « Tu vas crever », je cite. Ensuite, un nouveau courrier, il y a 2 jours, ce samedi, où il est écrit « La semaine prochaine, tu mourras ». L'enquête est confiée à la sécurité publique depuis le mois dernier. La procureure de Marseille précise qu'un dispositif de sécurité est mis en place depuis pour protéger ses enseignants. La procureure qui précise qu'en l'état des investigations, rien ne permet de relier ces menaces de cours à des cours qu'auraient pu donner ses enseignants dans le passé.
Merci beaucoup Sandra Buisson pour ces informations. Un tout petit mot, commissaire Lebars, c'est évidemment très compliqué pour des enseignants de recevoir des menaces de mort à leur domicile, parce qu'évidemment, ça veut dire que ceux qui les menacent, on leur adresse.
C'est très compliqué, c'est extrêmement grave, et on note dans votre reportage qu'il y a une réitération, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui s'entête, ou plusieurs personnes d'ailleurs, à menacer ses professeurs. Après, il faut faire confiance aux services de police qui vont de toute façon, à un moment ou à un autre, je l'espère et je crois, identifier les auteurs avec différentes techniques d'investigation, on verra ce que ça donnera.
On débat de ce sujet, évidemment, ce soir dans Punchline, c'est parti pour aujourd'hui.
Europe 1, Punchline, Laurence Ferrari.
Il est 18h sur CNews et sur Europe 1. Si vous nous rejoignez à l'instant, on évoque ce couple d'enseignants de Marseille qui a donc reçu plusieurs lettres de menaces de mort et accompagné Gabrielle Cluzel d'une photo de Samuel Paty, le professeur d'histoire géo décapité par un terroriste à Conflans-Sainte-Honorine. C'est assez explicite, évidemment. On ne sait pas encore pour quelles raisons, si tant est qu'il y ait des raisons de menacer de mort des professeurs. Ils ont reçu ces lettres-là. Mais ça dit beaucoup de l'état d'esprit, encore une fois, qui règne dans l'enseignement aujourd'hui, avec des professeurs qui ont peur d'aborder certains sujets face à leurs élèves.
Oui, il est évident qu'aujourd'hui, il y a une autocensure. Ils le reconnaissent parce que certains sujets sont devenus hautement risqués. Le 11 septembre, la colonisation, la Shoah, les croisades. Donc, les professeurs qui ne se sentent pas une vocation de martyr, et on les comprend, évitent pour beaucoup ces sujets-là. C'est vrai qu'il y a un climat. Je ne sais pas si on peut s'en rendre compte quand on n'est pas professeur. Moi, je l'ai découvert en interrogeant des professeurs. Il y a un climat vraiment de peur aujourd'hui. Un certain nombre d'entre eux, du reste, se sont détournés de la profession, hein, il faut quand même le savoir. Ils ont l'impression que pas grand-chose n'a été fait depuis l'affaire Samuel Paty, parce que rendre hommage, c'est bien, mais après, que se passe-t-il ? Il y a vraiment une forme d'angoisse. Il y a plusieurs affaires, alors pas comme celle-ci. Hein. Celle-ci me paraît vraiment d'une gravité particulière, en plus être de fait menacée chez soi. Ça, on a ses enfants, enfin c'est autre chose. Puis ça veut dire que celui qui vous agresse a des connaissances sur votre vie privée, donc c'est autre chose que d'être menacé dans les écoles. Mais est remonté ce week-end, par exemple, dans les Yvelines, une moto qui s'est arrêtée, qui a demandé à deux élèves d'identifier un professeur. Alors apparemment, là aussi, le professeur renseignement pris auprès de la préfecture, le professeur ne voit pas de qui pourrait s'agir et n'a pas fait de cours sensibles, entre guillemets, donc c'est peut-être pas dans un contexte islamiste, mais néanmoins des rondes ont été faites, ont été organisées. Donc on voit quand même que les professeurs aujourd'hui vivent dans un contexte d'angoisse profonde tout le lycée avec eux, puisque les élèves en l'occurrence ont très vite fait remonter l'information quand même. Ils ont compris qu'il y avait
un climat de psychose quand même qui est assez présent. On pense à ces professeurs évidemment qui sont menacés tous les jours et notamment à leur domicile.
Oui, c'est vrai que depuis le terrible assassinat de Samuel Paty, on constate que l'école peut-être une cible, donc cible des terroristes, cible de menaces. Donc vous avez des enseignants qui sont menacés pour simplement exercer leur profession, je le rappelle quand même. Et donc vous avez des enseignants qui s'auto-censurent, on le disait, qui ne se sentent pas soutenus également par leur hiérarchie. Vous avez le côté pas de vague qui existe aussi dans l'administration, donc qui alimente aussi cette auto-censure. Et on ne peut pas dire non plus que l'exécutif n'a rien fait. C'est-à-dire qu'il y a eu une prise de conscience, là encore, de l'exécutif, où il y a eu quand même une loi qui a été votée confortant les principes républicains, qui donne des moyens juridiques pour lutter contre l'islamisme. Ce n'est jamais assez, certes, mais néanmoins, on a plus de moyens. Et puis, il y a ce plan de formation des enseignants qui a aussi été mis en place, des référents laïcité au sein des différents rectorats pour que ces enseignants qui se sentent menacés aient aussi une écoute et se sentent moins seuls. Donc, on ne peut pas dire que rien n'a été fait. Mais ce n'est jamais assez. Et donc, il faut être vigilant, soutenir ses enseignants. Et la preuve, c'est que cette actualité prouve que la menace continue. Donc, comme le disait le commissaire, on attend les résultats de l'enquête.
Jean-Claude Dacier, sur ces menaces.
Je crois qu'il faut rester sur le cas de ces deux professeurs. On l'a dit, ce qui leur arrive est d'une gravité exceptionnelle. Enfin, exceptionnelle. J'espère que c'est exceptionnel. On peut aussi imaginer facilement qu'ils n'ont pas la sérénité nécessaire et la tranquillité d'esprit indispensable pour enseigner à leur classe. Je ne sais pas, on verra ce que dira l'enquête, mais enfin, si quelqu'un s'en prend à eux en lien direct avec l'assassinat de Paty, c'est sans doute lié avec leur enseignement, avec la situation dans leur classe, avec la situation dans leur lycée ou dans leur collège. Donc c'est bien lié au problème qui nous occupe. Alors, à partir de là, je ne vais pas répéter ce qui a été dit et qui me paraît excellent. Là, il faut régler ce problème de manière, encore une fois, j'ai l'impression qu'on dit toujours un peu la même chose, mais exemplaire et assez radical, en tout cas très ferme. Faire ça, et ça a été fait à plusieurs reprises, c'est encore une fois d'une gravité exceptionnelle et on ne peut pas le tolérer. Donc j'espère que la police va leur mettre la main dessus. Et après, pardonnez-moi, encore une fois, je ne suis pas un enfermiste malade, mais je pense qu'il n'y a qu'une seule, sanction, la prison, le soir
même. La prison pour délai de... Alors, est-ce que c'est plausible, David Demars, commissaire ?
Évidemment.
De la prison pour des menaces de mort ?
Des menaces de mort aggravées, hein, parce que la qualité des personnes qui sont des professeurs, des enseignants, c'est des menaces de mort sur personne dépositaire du service public, de l'autorité publique. Oui, selon le profil des auteurs.
Après, oui, on verra.
Voilà, bien on verra. Sûr, ouais. On peut imaginer
plusieurs scénarios. Ils sont des malades mentaux.
Bon. Écoutez, moi, le gars qui a jeté sa professeure par terre la semaine dernière, il a eu de la prison avec sursis. Il n'est pas allé en prison, Jean-Claude.
Oui, mais, si on ne décide pas à réagir, intermédiaire, on n'a pas forcément de gros antécédents judiciaires, il y avait des antécédents scolaires. Moi, pour le coup, parfois, il faut le souligner, la réponse pénale, dans cette affaire-là, elle a été rapide.
Comparution immédiate.
Un sursis avec mise à l'épreuve.
Probatoire.
Je trouve que la justice a été au rendez-vous.
Absolument.
On peut toujours, parfois, faire des critiques les uns les autres. Là, encore une fois, parce que sur l'affaire qui nous occupe, c'est des affaires très graves, mais on peut tout aussi bien avoir ce qu'on appelle un petit crétin de 15 ans qui ne se rend pas compte de la gravité de son acte. C'est pas pour ça qu'il faut l'excuser, mais vous voyez bien qu'il ne sera pas éligible à la prison.
Il y a plusieurs vagues de lettres,
oui,
visiblement, qui sont arrivées.
Mais vous savez, tant qu'on ne se fait pas choper, il y a des idiots qui se disent que ce qu'ils font, c'est très marrant et on fait marrer la classe.
D'accord.
Ou ça peut être quelqu'un avec des antécédents, qui a un profil très inquiétant, et ce sera plus sérieux. Je ne veux pas insécuriser plus ces professeurs. De toute façon, que ça arrive à domicile, de façon réitérée, c'est la gravité de l'action. Il faudra que ça aille très vite du côté de la justice et de la police avant que ce soit la justice.
Concernant, moi, je vais revenir sur l'affaire Samuel Paty, parce qu'on n'insiste pas suffisamment sur le fait que on doit aussi s'intéresser à la relation entre les parents, parce qu'il y a une responsabilité des parents dans cette terrible actualité. Hein. Responsabilité des parents et le lien entre eux et le système scolaire. Un parent, il n'a pas à s'immiscer dans la transmission du savoir et dans la pédagogie. Si, à côté de ça, il faut aussi être ferme avec les parents. Enfin, moi, je le vois en tant qu'élu à Évry-Courcouronnes. Souvent, les parents qui sont de confession musulmane estiment que la laïcité, c'est un principe anti-musulman, anti-islam. Eh bien, je peux vous dire qu'à côté du système scolaire, et donc de l'inspection de l'éducation nationale, on a plutôt expliqué ce que c'est que la laïcité à ses parents en disant mais pas du tout, au contraire, la laïcité c'est la liberté de croire ou de ne pas croire et c'est ce principe qui vous permet de pratiquer votre religion en paix. Et je peux vous dire qu'il y a des parents qui sont sortis de ces réunions de formation donc destinées aux parents plutôt rassurés. Donc il y a une méconnaissance aussi. Mais complètement.
Pas seulement les enfants.
Il y a du travail.
Pas seulement les enfants.
Quel boulot.
Quel boulot.
Un dernier mot, Jean-Claude ?
Non, mais je crois que ce que vous dites est important. J'imagine que c'est fait dans de nombreux endroits, mais il faut tout reprendre à zéro. Parce qu'effectivement, la plupart des familles musulmanes sont convaincues qu'au fond, il n'y a que de l'hostilité dans les principes de la laïcité. Voilà, expliquer, il faut tout reprendre à zéro, leur expliquer que ce qu'on ne tolère pas, c'est l'islamisme. C'est l'islam menaçant, c'est l'islam qui considère que la loi de l'islam est supérieure à la nôtre. Ça, on ne peut pas l'accepter. Alors, ou ils se mettent ça dans la tête, ou on n'a pas fini d'avoir des problèmes.
Gabriel Cluzel ?
Au-delà des cas de menaces, tant que les professeurs s'auto-censureront sur certains sujets, c'est-à-dire refuseront de faire une partie du programme par peur, et par peur légitime, c'est qu'il y aura eu un échec. Un échec dans les plus hautes instances à résoudre ce problème-là. Moi, je veux bien qu'on explique aux parents, mais je crois qu'il ne faut pas être dans l'angélisme. La pédagogie avec les parents, ça ne va pas suffire. Donc,
Gabriel,
qu'on a mal fait comprendre que la laïcité, finalement, c'était pas si mal. Que à la fin, on en vient à dire que c'est presque notre faute. On n'a pas su faire passer le message de la laïcité. Je crois qu'on est au-delà de ça. Il faut se rendre compte que les mineurs, vous disiez, ça peut être un mineur de 15 ans, un crétin, mais les mineurs, aujourd'hui, ont des actes extrêmement graves. On ne peut plus les considérer comme des enfants de la comtesse de Ségur qui volent des Mistral gagnants.
Hein. Voilà. Ça dépend du passé pénal de l'auteur.
Exactement, mais c'est là aussi la difficulté. D'ailleurs, on voit que dans l'affaire Paty, il y avait des complices mineurs qui, après, c'est là encore une autre difficulté, que l'on traite, que l'on juge comme des mineurs, parce qu'on se dit finalement ce sont des enfants, avec notre logiciel français, mais en réalité, ils posent des actes extrêmement graves qui peuvent aller jusqu'au crime. Donc moi, je suis très inquiète justement par cette excuse de minorité dans ce genre de cas, et je me demande si on finira par résoudre tout cela.
Commissaire Lebars ?
Non, mais pour être très clair, moi, j'excuse jamais les mineurs auteurs, puisque je pense qu'une des une des grandes, entre guillemets, faillites de la justice, c'est le mineur délinquant. Je l'ai souvent dit sur votre plateau. L'âge ne doit pas être une circonstance d'excuse de minorité au sens de la gravité de l'acte. Je parlais des suites pénales. Quand on a un mineur de 15 ans, s'il n'a pas commis trop d'antécédents face à une menace de mort devant la justice, le pari que je fais, mais ce n'est pas un pari ni favorable ni pas favorable, c'est qu'il ne sera pas incarcéré. Ce n'est peut-être même pas la première bonne solution. Vous savez, moi, je suis beaucoup plus adepte des structures qui pourraient être des centres de rééducation, parce qu'on a connu ça dans le passé. Nos ancêtres ou nos parents nous ont parlé de tout ce qui était maison de correction. Mais finalement, ce qui manque à la société d'aujourd'hui, c'est de corriger, d'éduquer, quitte à enfermer pour ce qui est des mineurs avec de la contrainte, ce qui n'est pas le cas dans les centres éducatifs fermés. Maintenant, évidemment qu'un mineur peut commettre un acte très grave, voire, enfin, moi j'ai travaillé dans des territoires difficiles, la fameuse phrase qu'on a entendue au tribunal pour enfants à Bobigny, le mineur est une victime, c'est exactement ce qui fait la faillite du bas du spectre de la délinquance, qui est finalement celle qui embête la grande majorité de nos concitoyens. Et une fois qu'on les laisse grandir, c'est ce qui fabrique de la délinquance. Tout le monde n'y va pas, mais une fois qu'ils n'ont pas été attrapés, ceux qui restent dans la délinquance, ça devient les très gros délinquants d'après.
Et en voyant ces menaces contre un couple d'enseignants, on ne peut pas s'empêcher de penser aux policiers qui sont menacés chez eux aussi. La semaine dernière, il y avait des tags sur les halls d'immeubles avec l'adresse, les plaques d'immatriculation, le nom des compagnes de certains policiers. Effectivement, vous êtes menacé de la même façon.
C'est exactement les mêmes motifs et les mêmes symptômes. Tous ceux qui incarnent l'autorité, ce qui est totalement inacceptable, on le dit souvent, policiers, gendarmes, mais en allant au-delà, les pompiers, des enseignants, quand on se retrouve dans une société qui menace des gens qui sont censés enseigner, sauver, secourir, qui sont menacés à domicile, ça pose la question de l'extrême violence qui se déroule dans la société française. On peut toujours débattre, sentiment d'insécurité statistique, etc. Qui aurait imaginé qu'on se retrouve avec des gens qui sont là pour rendre service, pour enseigner, pour permettre aux uns et aux autres de s'insérer, y compris d'ailleurs si les parents ne voient pas ça et ne sont pas capables de tenir leurs enfants, c'est une faillite complète et ça pose la question de comment on règle ce sujet-là. Là, le débat risque d'être long. Je ne sais pas si les assises de la justice...
On va l'évoquer dans un instant. Joël Haïté, un tout petit mot là-dessus sur les mineurs.
Sur les mineurs, oui, c'est vrai que ce que le juge aussi prend en considération, c'est le principe de discernement. Après, concernant la sanction, je trouve qu'elle arrive tardivement. Et c'est pour ça que la loi qui a été votée récemment, elle consiste aussi à ce que la responsabilité pénale de l'enfant mineur prise en compte assez tôt. Parce que le problème, c'est que quand la sanction elle vient tardivement, il y a des risques de récidive et on le voit. Enfin, moi, je le vois dans un certain nombre de dossiers où, la sanction, elle arrive bien après, c'est-à-dire 8 mois ou 9 mois, voire un an après les faits, vous dire que vous multipliez les risques de récidive. Ça, c'est une réalité.
Je crois que la loi Dupond-Moretti sur le séparatisme réconcilie entre guillemets les Français avec leur justice. Je pense que cette loi n'est pas à la hauteur de l'enjeu et du risque et de la situation de la justice aujourd'hui. J'espère, moi, que 4 mois de travaux... Quand même, le président de la République dit « c'est pas moi », je n'en crois pas tellement, mais... c'est quand même une démarche importante. Hein, Molins, procureur à la Cour de Casse, Madame Arins, présidente de la Cour de Casse, une première présidente de la Cour de Casse, c'est pas rien. Je pense qu'ils sont parfaitement conscients des dégâts et de l'état de la justice, qui manque certes de moyens, mais qui aussi fortement est trop politisée et à qui on peut faire beaucoup de reproches. Je pense qu'ils en sont absolument conscients. Et je veux croire, je veux encore espérer qu'il sortira de ça quelques projets de loi pour le prochain président.
Allez, on fait une petite pause, on va parler des états généraux de la justice qui ont été enclenchés aujourd'hui. À la lumière notamment de ce qui se passe à Lyon, comment faire stopper ces rodéos urbains? Le centre-ville a à nouveau été le théâtre d'un rodéo urbain ce week-end. On en débat dans un instant dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. A tout de suite.
Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1.
On se retrouve dans Punchline sur CNews et sur Europe 1 avec Jean-Claude Dacier, Gabriel Cluzel, Najwa El Haïté qui est avocate, et le commissaire David Lebars. On évoque la réponse pénale à la lumière de ces états généraux de la justice qui ont commencé aujourd'hui, qui ont été lancés par le président. 5 mois de consultation, on va en parler dans un instant. Mais très précisément, est-ce que, encore une fois, la question de la réponse pénale n'est pas au cœur de tous les enjeux? Comment faire cesser un certain nombre de pratiques qui pourrissent la vie des habitants? Je pense à ces rodéos urbains, il y en a encore eu ce week-end dans le centre-ville de Lyon. Les Français sont exaspérés qu'il n'y ait pas de réponse en fait à ces phénomènes-là. On fait juste le point sur ce qui s'est passé ce week-end avec Melody Stevenson et on en débat dans Punchline.
Déguisés en Dalton et masqués, les frères ennemis de Luc et Luc, plusieurs individus à moto s'adonnent à un rodéo urbain Les auteurs pourraient être les membres du groupe de rap Les Dalton. Ils se sont filmés en direct sur Instagram. Un rodéo urbain vivement dénoncé par Pierre Oliver, le maire du 2e arrondissement, qui se sent bien impuissant et demande plus de moyens pour lutter contre cette délinquance.
Il y a quelques jours, j'ai encore demandé au maire de Lyon d'installer des caméras de vidéo protection supplémentaires. Il me les a refusées et je pense que tous ces éléments peuvent nous permettre d'endiguer ce phénomène de rodéo.
Interpeller les auteurs de rodéo urbain s'avère très difficile pour les forces de l'ordre. À Lyon, les rodéos urbains se multiplient, provoquant l'indignation et la colère des habitants, victimes indirectes des nuisances des motos.
Commissaire Lebars, c'est si difficile que ça pour les policiers d'abord d'interpeller tout simplement ceux qui sont sur ces motos ?
Plus dangereux que difficile. D'abord, si vous me permettez, il y a quelques jours, il y a un rodéo qui a peut-être pas assez suscité l'émotion, mais qui a causé la mort d'une dame de 80 ans. Mmh. Voilà, donc déjà, quand on prend le sujet des rodéos, le rodéo, c'est pas rigolo, ça tue. Premier point. Deuxième point, le maire de Lyon, il n'y a pas longtemps, Grégory Doucet, déclarait publiquement que les caméras, ça servait à n'attraper personne. Ben moi, je lui pose la question à Grégory Doucet, est-ce que samedi ou ce week-end, est-ce qu'il y avait quelqu'un derrière son centre de surveillance urbain ? Est-ce qu'ils ont fait en sorte de zoomer pour voir les plaques d'immatriculation, ou si toutefois elles sont exploitables ? Est-ce qu'ils ont zoomé sur des visages ? Est-ce qu'ils ont envoyé des patrouilles pour essayer de canaliser la place Bellecour pour tenter une interpellation ? Est-ce qu'il faut être prudent ? Je vous le dis, c'est plus dangereux qu'impossible. Mmh. C'est faisable. Mmh. Le problème, c'est qu'on expose à la fois les policiers et les voyous, parce que ce sont des voyous qui, en général, en plus, font ça avec des motos, je ne vais pas donner de marque, j'ai failli le faire, des véhicules qui sont parfois volés ou pas homologués. Là, ça a l'air de l'être, mais je ne sais pas d'où ils viennent. Si on ne peut pas le faire pendant, on peut aussi agir après. La question, c'est de savoir si on veut s'en donner les moyens. Et les caméras, ça n'est pas la réponse à tout. Ça permet peut-être pas d'attraper, ça permet quand même d'orienter les patrouilles, ça permet d'identifier, ça permet de faire du travail d'investigation. Sinon, on passera son temps à se plaindre de ces rodéos qui sont des provocations, parce que celle-ci, elle est mise en scène, elle est filmée, ils s'habillent en tenue de Dalton. Moi, j'ai envie de dire, prenons la perche qui nous tend, ils sont en tenue de Dalton, ils ont des tenues de bagnard, mettons-les en prison si on les attrape.
Encore faut-il que la justice veuille bien en décider. La réalité, quelle réponse apporter à ces phénomènes ?
Oui, une réponse pénale. La loi existe, qui date du 3 août 2018, mais on sent, qui prévoit d'ailleurs un an de prison et 15 000 euros d'amende, mais on sent une impuissance d'ailleurs des élus locaux. Beaucoup d'associations d'habitants ont déposé plainte contre des communes qui n'assurent pas la tranquillité publique, la sécurité des habitants, qui ont été condamnées par le tribunal administratif. Et malgré tout, on sent qu'il y a une impuissance à lutter contre ça. Alors, j'entends le manque de moyens, il faudrait peut-être plus de caméras, de vidéosurveillance, mais le problème, c'est que ces jeunes, j'ai l'impression qu'il y a une impunité, qui s'installe. Ils sont chez eux, on voit.
Mais ils ne risquent pas grand-chose pénalement. Vous parliez d'un an de prison. Je serais curieuse de savoir combien de personnes qui faisaient des rodéos ont été condamnées à un an de prison.
C'est la question.
Sauf s'il y a un décès ou des blessures graves.
Et donc, la question se pose de comment cette loi est appliquée sur le terrain concrètement. Et je comprends, moi, le ras-le-bol des habitants, puisque c'est des nuisances sonores. En effet, ces rodéos urbains tuent. D'ailleurs, dans notre ville, une petite fille en est morte. Et donc, on ne peut pas laisser continuer ça. Mais une fois que je dis ça...
Il faut les attraper. Il faut les attraper et les condamner. Gabriel Cluzel.
Alors moi, pour en avoir parlé à des membres des forces de l'ordre, ils m'ont dit très clairement, on a des consignes pour pas les arrêter. Voilà, c'est très clair.
Alors, la peur de faire des blessés.
Exactement, et la peur de faire des blessés et la peur de susciter un battage médiatique absolument extraordinaire. On voit que dès que la police intervient sur quoi que ce soit, elle est de près ou de loin, elle est mise en cause. Je vous rappelle, la semaine dernière, il y a 3 migrants qui ont été écrasés malheureusement par un train à Bordeaux. Et il y a eu des gens pour dire, ah oui, mais c'est parce que la police les poursuivait. Donc on voit bien que si la police fait tomber un de ces jeunes en rodéo et que celui-ci se blesse ou se tue, ce sera la faute de la police, ça va être épouvantable, donc on préfère ne rien faire. Mais qui en pâtit, in fine ? Eh bien, c'est cette dame de 80 ans qui est décédée à Toulouse, c'est cette petite fille chez vous, et eux, en revanche, alors eux, on préserve la sécurité de ceux qui conduisent les engins dans les rodéos. On vit quand même dans un monde de fous qui est cul par-dessus tête, pardonnez-moi cette expression, mais c'est quelque chose de profondément choquant, et là aussi, on est dans la stratégie du pas de vague et la stratégie d'évitement, et évidemment, comme c'est une provocation et un rapport de force, ça ne on a le sentiment que ça ne cessera jamais.
Commissaire Lebars, oui.
Parce qu'aujourd'hui, dans l'état du droit, si des policiers ont une consigne ou prennent d'initiative le choix de poursuivre ces délinquants et qu'il y en a un qui chute et qu'il est gravement blessé ou voire décédé, il y aura la traînée de poudre médiatique que vous venez de décrire. Il y aura également la mise en cause pénale des policiers. Mmh. Les Anglais, ils ont fait un choix courageux, on peut le commenter, mais ils ont pris une loi. Donc aujourd'hui, les policiers agissent sous couvert d'une loi qui les autorise à prendre en charge des véhicules qui fuient. Et ils ont même l'autorisation, par la loi, de pousser les fuyards et de les faire tomber. Voilà, je ne pense pas qu'en France, on soit à la veille d'une loi comme celle-là. Mmh. Mais si la classe politique considère que ce phénomène-là doit être éradiqué, il faut donner la couverture juridique aux policiers de faire et de ne pas les laisser s'exposer au risque qui sera médiatique de poursuites pénales et qui sera seul face à ses juges. Donc c'est un choix à faire qui n'appartient pas aux policiers de terrain.
Jean-Claude Dacier.
Je crois même que la loi leur fait peur. Je crois que la loi leur fait peur. Le gouvernement ne prendra jamais une loi de cette nature. Jamais. Ça va leur être reproché. On verra bien ce que les Français en diront. On vote dans 6 mois. Mais c'est ça le problème. C'est que, et le maire, M. Doucet, et son entourage, et je pense le préfet et son cabinet, ne veulent surtout pas prendre le risque, l'accident on l'a dit, mais aussi d'une mobilisation sociale que presque place Bellecour. Alors mes souvenirs, la dernière visite à Lyon, c'est assez lointain, mais il doit y avoir 4 rues qui amènent à la place Bellecour.
Sur le plan opérationnel.
Donc sur le plan opérationnel, ça ne devrait pas être insurmontable de mettre des herses tout de suite, de mettre des voitures s'il en faut, et d'attendre que ça se...
Ça se fait en 2 minutes. Le problème, c'est tellement rapide.
Donc ça doit pouvoir être possible d'interpeller ces jeunes gens. Si on ne le fait pas, après on voit ce qu'on en fait. Encore une fois, mais si on ne veut pas le faire... Bah écoutez, parlons d'autre chose.
Non, c'est tout, voilà. Juste une question, David Lebars, parce que là, et pour nos auditeurs, on a les images de la place Bellecour. Il y a des petits plots de béton. Elle est immense, hein, cette place. Il y a des petits pots de béton, mais qui sont évidemment espacés, donc ils laissent largement passer une ou deux motos, voire plus. Depuis le temps qu'on en parle de ces rodéos dans le centre de Lyon, ça fait des mois qu'on en parle. Il n'y avait pas moyen de mettre de quoi bloquer, en fait, l'accès à cette place Bellecour pour ces motos?
Mais tout est envisageable. Il y a des quartiers, moi j'ai déjà eu des témoignages de gens qui me disent, on voit à la télé, dans notre quartier, les choses ont changé, la municipalité a créé, je dirais, une sorte de parcours d'obstacles, c'est de l'aménagement urbain, ça pourrit la vie de ceux qui font des rodéos, ils n'ont plus le champ d'expression. Après, c'est un choix esthétique et urbain, la place Bellecour, elle est belle en l'état, s'il faut y mettre des plots, des bides, des barrières en béton et bloquer tout passage, voilà, c'est un choix politique et un choix urbain, ça se fait, ça s'appelle de la politique préventionnelle, situationnelle, tout est envisageable. On peut pas avoir un maire qui se plaint les caméras, il n'est pas trop pour et qu'il les justifie en disant que finalement ça n'attrape personne. Si les caméras c'est un outil parmi d'autres, il y a l'aménagement urbain, il y a la réponse pénale, il y a la loi, l'exemple qu'on a donné en Angleterre, mais sinon on continuera effectivement à constater quoi, non seulement l'ampleur du phénomène, mais je dirais en plus, maintenant c'est une provocation parce qu'ils viennent sous les fenêtres du maire.
C'est
un doigt d'honneur aux autorités publiques, ils tournent un clip, ils arrivent en tenue de détenu, je vous dis, là on a l'intégralité de la panoplie, je suis prêt à parier, c'est des scooters de très grosses cylindrées qu'on a exactement ces mêmes scooters-là. Sur des actes de délinquants dans les quartiers.
C'est les gros trucs.
On a exactement tout ce qu'on peut détester et qui en plus tue, puisque on a un enfant qui a été tué il n'y a pas très longtemps, une dame âgée. Ce qui est dingue, c'est que dans cette société, la mort d'un piéton, d'un civil, ne suscite aucune émotion et qu'on sait par avance que si c'est un de ces voyous qui tombe au sol et qui se tue, on sait qu'on va avoir 6 mois d'émeute. Ça, c'est le paradoxe complet dans notre pays.
C'est terrible pour l'image de l'État parce que c'est une crise de l'autorité, j'allais dire, autorité de l'État, autorité aussi du maire, donc quand même qui doit assurer la tranquillité publique et la sécurité des habitants. Et ce qui est terrible, c'est d'entendre que... Il y a la loi, mais il y a la crainte des émeutes, donc peur en effet de blesser un de ces jeunes et ensuite ça partirait en vrille. Et en vrille, ça c'est pas entendable. Ce n'est pas entendable. La loi, elle doit s'appliquer et on ne doit pas craindre. On ne doit pas craindre. Vous parliez d'angélisme, mais à un moment, il faut être ferme avec les voyous et la sanction, elle doit être appliquée. Sinon. C'est la crise de l'autorité de l'État et on n'est pas prêt d'en sortir.
Ça fait des années que ça dure.
C'est terrible.
Ça ne s'améliore pas. J'ai des petits doutes sur le fait que nous soyons, enfin quand je dis nous, que le gouvernement, le pouvoir, ait la capacité, la volonté de changer de braquet à 6 mois d'une élection présidentielle. Je crains... Alors, on peut toujours être naïf comme moi et espérer qu'au moins, pendant la campagne, ces questions seront mises au débat et qu'un certain nombre de candidats peut-être le futur président, prendront des engagements. Mais qu'au moins, on ait l'engagement que le durcissement va venir. Mais au jour d'aujourd'hui, pendant les 6 mois qui viennent, je n'y crois pas trop.
Gabriel Cluzel.
Oui, de fait, on a le sentiment d'une morale dans ce pays complètement inversé qui fait que la vie du délinquant a plus de valeur du fait du déchaînement médiatique qui s'en suivrait, parce qu'il y a une forme d'hypocrisie, c'est ça essentiellement qui fait peur au pouvoir politique, que la vie des honnêtes gens que les forces de l'ordre sont censées protéger. Donc, de fait, les forces de l'ordre sont obligées de reculer sur ordre devant les voyous. Alors que vous parliez de responsabilité des parents, mais les parents responsables expliquent à leurs enfants que quand vous êtes délinquant, c'est un métier à risque, si j'ose dire. Donc, vous les endossez, ces risques. Donc, effectivement, quand vous êtes pris dans un trafic de drogue, c'est plus dangereux que si vous passez vos soirées à la Sorbonne, voyez, ou à je ne sais pas quelle université à travailler. Donc, c'est évident que c'est toute la conception de la société qui est à revoir. En réalité, toute la conception de la justice, c'est une inversion totale des valeurs qu'il faut retrouver, parce que nous avons glissé depuis des dizaines d'années vers une espèce de magnification du délinquant qui est par essence une victime.
Et l'autorité est devenue un gros mot.
Exactement.
Ouais, c'est vrai, depuis 68, vraiment, on assiste à un délitement social qui va avec la crise de l'autorité.
Quand il y a une victime, à partir de là, c'est compliqué.
Et ça complique, commissaire Lebars, le travail des policiers, évidemment.
Là, c'est vraiment essentiellement un travail opérationnel et de policiers, l'échec. Hein. Mmh. Alors, ce n'est pas de la faute des policiers, hein. C'est les outils qu'on leur donne pour faire ou pas faire. Parce que là, pour le coup, la justice... Bon, on peut encore regarder que le rodéo urbain aujourd'hui est devenu une telle provocation et une telle mise en danger que ça correspond à des infractions qui existent, mais on pourrait se poser la question de qualifier, je dirais de façon spécifique, le rodéo urbain. Après, il ne faut pas rajouter des lois sur des lois, mais c'est un petit peu comme le guetteur, vous savez, sur un plan stup, il guette, finalement il est incriminé de pas grand-chose à part une contravention. Ça pourrait se justifier parce que finalement, c'est ces phénomènes qui prennent une ampleur terrible. Vous savez, ce qui finalement sort aux yeux de tout le monde, c'est que tous ces phénomènes-là, ils ne sont pas nouveaux. Moi, j'ai travaillé dans des banlieues, dans des quartiers dits difficiles, où finalement, j'avais la sensation en tant que policier que ça n'intéressait que ceux qui y vivaient, donc que ça n'embêtait que ceux qui y vivaient. On se rend compte de deux choses. C'est que ce phénomène s'est répandu aujourd'hui, parce qu'il y en a de plus en plus, mais surtout qu'on les voit. Donc maintenant, on est en train de constater à retardement un phénomène qui n'a pas été endigué au bon moment, alors même qu'on aurait pu le canaliser dans des quartiers où c'était peut-être encore réalisable. Il y a plein de sujets qui sont encore sur la table. Il faudrait faciliter la possibilité de saisir. Moi, je fais
véhicules.
Partie. Oui, parce
les
que
motos,
quitte à ce que l'État prenne un risque et que l'État indemnise après si l'État se trompe. Mais moi, je dis, ces gens-là, si on les attrape, c'est destruction immédiate des motos avec publicité faite. Et puis, si, tant pis s'il y en a un dont la moto était réglementée et qu'il était en règle, eh ben, il y aura une indemnisation. Mais on est amputé de tout pouvoir d'action parce qu'on a peur de les faire tomber, on a peur de les blesser, on a peur de saisir la mauvaise moto. On stocke des motos comme ça quand on les saisit des mois et des mois, le temps de voir si la procédure permet de les détruire. Donc, il faut tout simplifier, tout revoir. J'espère que ce sera le sujet de la simplification de la procédure pénale, voire d'un transfert d'une partie de l'action pénale sur l'autorité publique. Vous savez, moi, je pense que les commissaires de police sont déjà officiers du ministère public. On peut poursuivre sur des contraventions. Je pense que pour désengorger la justice, il faut aussi donner une partie du contentieux à l'autorité publique, que ce soit le préfet, le commissaire de police, avec des garde-fous, pour traiter ces problématiques-là à la fois sur le plan opérationnel et sur la réponse pénale, pour que ce soit tout de suite.
Oui, l'état de droit est devenu un obstacle. L'état de droit est devenu un obstacle. Et la bureaucratie, mais bien sûr,
c'est encore un autre sujet.
Mais non, c'est pas notre sujet. On
éminemment
est en plein
politique.
Dedans. On est en plein dedans. Il faut évidemment simplifier les choses et alléger le poids de la bureaucratie et de l'administration qui étouffe tout le monde. Mais c'est tellement évident.
Policiers comme magistrats d'ailleurs.
Mais c'est bien sûr. Tout le monde est victime de l'ampleur du système. C'est une paralysie générale. On change ou on change pas.
Gabriel Cluzel.
Non, mais de fait, sans doute, c'est vrai sur la bureaucratie. Vous avez tout à fait raison. Mais il y a aussi pour moi au cœur du sujet, c'est la confiance que l'on accorde ou pas aux forces de l'ordre.
Et le
fait est qu'Emmanuel Macron, en parlant de violences policières, en accréditant l'idée qu'il pourrait y avoir des violences policières, eh bien il a détruit cette présomption de confiance qui devrait exister. Les forces de l'ordre, de façon générale, il y a la présomption qu'elles feront bien leur métier et que si donc elles ont fait ce qu'elles ont fait, eh bien c'était nécessaire. Et là, c'est l'inverse. Elles ont une présomption de culpabilité et elles ne peuvent pas travailler. Et c'est vrai pour les rodéo, mais c'est vrai pour tous les sujets. Alors, de fait, on arrive à ne verbaliser plus que les gens, la France bien élevée, si j'ose dire, qui ne fait pas grand-chose. C'est-à-dire, on arrête le gars à vélo qui... Ah, vous êtes passé au rouge. Ah oui, je suis passé au rouge. Bon, bah, verbalisez-moi. Et finalement, ça devient une société, là encore, inversée, où ce sont les gens qui respectent la loi qui sont sanctionnés pour des tout petits écarts. Et en revanche, les grands délinquants, on leur fiche la paix parce qu'on en a peur. C'est... Il va falloir quand même sortir de ça.
Commissaire
Le Bars. C'est le refus d'obtempérer.
Oui, oui, bien sûr. Mais c'est un vrai problème.
C'est le danger qui nous guette et qui laisse s'amplifier le sentiment d'injustice. Il y a le sentiment d'impunité, je crois qu'on a tous compris ce dont il s'agissait. Et le sentiment d'injustice, c'est ce que vous venez de décrire. C'est des personnes qui sont capables de commettre, comme tout le monde, ça nous est tous arrivé, une infraction, qui ont l'impression de se faire taper sévèrement, tout de suite, d'être solvables, d'être ceux qui payent, et de constater finalement qu'au quotidien, il y en a qui se permettent beaucoup plus grave et qui ne sont pas punis. Ça, c'est extrêmement dangereux, parce que ça crée un discrédit vis-à-vis des forces de l'ordre, vous savez. Maintenant, moi, les collègues de terrain, les policiers de terrain, ils me disent il n'y a plus un contrôle qui se passe bien. Tout le monde conteste. Parce que tout le monde considère qu'il y a le cran du dessus, il y a celui qui en fait plus. Donc il y a un problème d'acceptation de la sanction. Alors qu'avant, je veux dire, la peur du gendarme, moi qui suis policier, je me fais attraper en faisant une bêtise au code de la route, c'est réglé. Mais ça m'est arrivé comme tout le monde. J'ai perdu des points. On ne peut pas avoir un permis à 12 points sur toute une carrière, sinon c'est qu'on a vraiment de la chance. Accessoirement, ça montre la sévérité sur le code de la route.
Le résultat, en effet, c'est que plus personne n'obtempère. Il y a quelques années, vous discutez le fait qu'il y a un gendarme ou un flic qui
vous arrête. Voilà.
Les gens aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est-à-dire que plus personne n'accepte de s'arrêter et
quand même,
de s'expliquer.
Quand même. Heureusement que si.
Oui, enfin, il y a plus beaucoup de monde, il y a des refus d'obtempérer, il y en a plus de 300 par an.
On fait une petite pause.
Le problème, et j'ai terminé, si ça se termine mal, que les coups de poing volent, c'est l'IGPN qui s'en mêle. Comment voulez-vous que la confiance
arrive ? On va parler de la justice, parce que vraiment, on est dans le cœur du sujet de la réponse pénale. On verra comment redonner confiance en la justice, parce que les Français sont très sceptiques. À tout de suite, dans Punchline sur CNews et sur Europe 1.
Europe 1, Punchline, Laurence Ferrari.
On se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On évoque la question de la justice. 68% des Français, selon un sondage CSA pour CNews, estiment que cette justice est trop laxiste. Comment faire en sorte de la rendre plus rapide et aussi plus efficace? On fait le point avec Emma Guessel et Chana Lousteau.
68% des Français jugent la justice trop laxiste. C'est le résultat du dernier sondage CSA publié fin septembre. Un manque de fermeté, encore une fois, martelé par les forces de l'ordre.
Les policiers constatent sur le terrain qu'il y a un décalage entre, les infractions commises, parfois extrêmement graves, les peines prononcées, et puis surtout, la récidive. Il faut qu'il y ait des peines peut-être plus courtes, mais qui soient prononcées et qui soient réellement exécutées, et pas dans un délai de 18 mois.
Les magistrats se défendent de tout laxisme, avec notamment l'augmentation du nombre de peines de prison, qui est passé de 40 000 détenus en 2000 à 70 000 aujourd'hui. Selon eux, le problème de la justice vient d'un manque de moyens.
On est presque à la moitié du nombre de juges par habitant de ce qu'exige le Conseil de l'Europe. On est à la moitié de l'Allemagne, par exemple, de juges par habitant. Pour le budget, c'est pareil, le budget de la justice. Donc, il faudrait l'augmenter de façon extrêmement conséquente et considérable.
Avec le calendrier électoral, les magistrats craignent que les états généraux de la justice arrivent trop tard. À 6 mois de l'élection présidentielle, ils redoutent qu'aucune loi n'ait le temps d'être votée.
Voilà, on entendait cette magistrate, vice-présidente du tribunal de grande instance de Paris. La justice laxiste, David Le Bars, évidemment, si je me tourne vers vous, vous allez évidemment aller dans ce sens-là. La justice pourrait condamner plus sévèrement, plus rapidement évidemment, mais plus sévèrement.
Alors, j'irai jamais sur le mot laxiste parce que c'est une accusation tellement subjective que ça dit plein de choses. Moi, ça va être difficile. Hein. Il faut ni politiser le débat ni répondre à coups de statistiques. Il y a eu les deux là. Les statistiques d'augmentation de l'incarcération, ça ne parle à personne. C'est exactement comme la politique du chiffre qu'avait le ministère de l'Intérieur, dire qu'on interpelle plus de fumeurs de cannabis ou de gens en situation irrégulière. Tout ça, c'est des statistiques qui sont même pas fabriqués, mais qui sont orientés. Donc, premier point. Le deuxième point, c'est les attaques politiques viennent dissimuler les problèmes structurels. Donc, il y a un sujet sur lequel tout le monde est d'accord. Ça manque largement de magistrats et de greffiers en France. D'ailleurs, j'entendais dans de nombreux reportages ce matin, la justice civile est autant en souffrance que la justice pénale. Le problème, c'est de quoi on parle là ce soir. On parle de justice pénale, de réponse pénale. La justice civile, bien sûr, qu'être divorcé trop tard, ça fait des conflits dans les familles. Tout ça, on l'entend. Quand on aura une justice à la hauteur du volume qu'on doit traiter à la fois sur le plan pénal ou civil, donc comme les Allemands, comme les Italiens, comme les Anglais, nos trois voisins référence, on pourra après aller ou pas sur le sujet d'une justice qui serait soit laxiste, soit politisée, etc. Moi, en tant que secrétaire général d'un syndicat de commissaires, si j'avais publié, par exemple, le mur des cons, là, je vais faire une minute de politique, je pense que mon syndicat aurait été dissous. Ça, c'est sûr que ça n'est pas normal, mais est-ce que c'est représentatif de tous les magistrats? Je crois pas. Tout comme je ne comprends pas qu'un syndicat de magistrats, toujours le même, ait pu publier le guide du petit manifestant pour s'opposer à l'oppression policière. Ça, c'est des choses inacceptables. Après, quand on regarde froidement les choses, il y a deux angles morts sur la justice pénale. Ça, c'est le regard d'un policier. C'est le mineur délinquant. Et avant d'être récidiviste, il est multiréitérant. Et être multiréitérant, ça n'est pas un statut. Donc devant un magistrat, ça n'est rien. Donc du coup, la justice peut voir arriver un gamin qui a fait 30-40 faits. Il est multiréitérant. Il devient multirécidiviste quand il est condamné une première fois. Ça, cet angle mort-là, il faut le traiter. Le deuxième, c'est la vitesse. Tout le monde s'accorde à dire qu'une justice qui va plus vite, c'est une justice qui doit avoir plus de moyens. Une justice qui déconcentre une partie de la réponse pénale à l'autorité administrative, comme je vous l'ai soumis tout à l'heure, c'est-à-dire élargir le champ contraventionnel, voire des petites peines à une autorité qui pourrait être celle du commissaire, du préfet, tout ce qui pourrait être faisable légalement. Et puis après, on verra comment on avance. Il y a un problème de procédure pénale, je vais en finir là-dessus. Moi, ça fait 3 ans que je suis secrétaire général, j'ai participé à des tables rondes, des travaux, des Beauvau, des assises. On n'arrive jamais à simplifier la procédure pénale dans un sens, qui est celui de mieux traiter le contentieux de masse pour mieux répondre aux victimes. C'est toujours un alourdissement. Donc il y a quand même un problème de philosophie sur la procédure pénale qui fait que si on ne sort pas de cette ornière, on n'arrivera pas à avoir une réponse pénale plus efficace.
Najwa Alité, vous êtes avocate.
Moi, je dirais en effet que je ne dirais pas que la justice est laxiste. Je le vois au quotidien. Les peines, elles peuvent être extrêmement sévères et notamment quand il y a récidive. C'est vrai que le juge, il prend en considération ce qu'on appelle et il respecte le principe de l'individualité des peines. Donc, quand il y a une infraction qui a été faite, eh bien, le juge va prendre en considération s'il s'agit d'une première infraction. Donc, c'est sûr qu'il sera moins sévère. Après, concernant les mineurs, je suis parfaitement d'accord avec vous. À partir du moment où on ne sanctionne pas tout de suite, il y a des risques de récidive. Et on l'a vu, il y a des analyses qui existent pour ça, des études qui existent, qui prouvent que quand la sanction est bien tarde à venir, eh bien, le risque de récidive est important. Une fois que j'ai dit ça, oui, le manque de moyens est criant. Je vous assure que quand moi je vais dans des tribunaux, eh bien, les moyens humains ne sont pas au rendez-vous, les outils informatiques. Et donc, ça, c'est une réalité. Et les chiffres aussi existent. Le budget de la justice en France, c'est 138 euros par habitant. On est en dessous de la moyenne nationale qui est de 177 euros. Donc là, tout est dit. Donc voilà, je ne parlerai pas de justice laxiste. Je dirais plutôt une justice qui manque de moyens. Par contre, une remarque particulière concernant la justice des mineurs, où là, je pense qu'il faut sanctionner très vite.
Gabriel Cluzel.
Il y a quand même un état d'esprit général, global. Après, individuellement, il y a des juges qui ne soient pas laxistes. Oui, c'est possible, mais vous parliez par exemple du mur des cons, c'est une réalité. Je ne crois pas que le ministre de tutelle ait sanctionné à l'époque le syndicat de la magistrature. Donc ça montre bien qu'il y a quand même un climat. Les juges rouges ou en tout cas imprégnés d'une idéologie façon Michel Foucault, c'est une réalité, c'est évident, et les Français le sentent bien. Alors on peut rajouter des moyens, mais s'il n'y a pas de volonté, c'est toujours un peu pareil, c'est un peu comme les forces de l'ordre, sans doute il y a un problème de moyens, mais on sait très bien que c'est pas ça seulement le problème. Moi j'ai pas entendu, et je pense que les Français attendraient ça de la part du garde des Sceaux, une parole symbolique forte, en disant ça suffit, là, ce pays, c'est devenu fou, je veux des sanctions exemplaires sur tous les sujets. Il y a 1000 façons de dire ça de façon extrêmement forte. Lui s'est contenté de dire, alors c'était il y a quelques mois, peut-être qu'il ne dirait plus aujourd'hui, n'empêche que c'est resté, il n'a rien dit de plus, il s'est contenté de dire il y a un sentiment d'ensauvagement, laissant imaginer aux gens qu'ils se l'imaginaient, que ce n'était pas tout à fait ça. Et en réalité, évidemment, l'actualité lui a donné tort. Donc il y a quand même, et le garde des Sceaux, c'est lui qui donne l'impulsion, qui tire devant. Et ça, on ne l'a pas. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement gênant. Et de fait, je crois que vous demandez, d'ailleurs c'est transpartisan, hein, ça dépasse, enfin peut-être pas l'extrême gauche, mais vous demandez aux gens, est-ce que vous pensez que la justice est laxiste ? beaucoup, et c'est, ça corrobore ce que dit le sondage, évidemment, beaucoup répondent par l'affirmative. Le dernier point sur lequel je vais revenir, c'est qu'il n'y a pas que la justice, là aussi. C'est toute la société. Vous parliez de la remise en cause de l'autorité. Il y a une colonne vertébrale de la société qui n'existe plus, qui, là aussi, a reflué depuis des dizaines d'années. C'est un peu là, les dernières... c'est la suite de... Il est interdit d'interdire. Hein. Quand il est interdit d'interdire, ben, on comprend ce que ça veut dire. Donc, et finalement, paradoxalement, les sociétés très libertaires, qui ne sont pas corsetées dès l'enfance, elles aboutissent à une force répression judiciaire. Parce que tout ce qu'on n'a pas intériorisé, tous les garde-fous qu'on n'a pas intériorisé, l'autocensure avec les profs, avec la police, la police c'est sacré, le prof c'est sacré, eh bien finalement quand on n'a pas tout ça, à la fin il ne reste plus que la justice pour sanctionner face à des délinquants qui n'ont pas été élevés tout simplement.
Vous êtes d'accord avec ça, commissaire Lebarre, avec cette
analyse? Oui, non, mais bien sûr, je vous dis, il va falloir des... Il y a un écueil dans lequel pas tomber, c'est qu'il ne se passe pas comme pour le Beauvau de la sécurité, je dirais, des assises de la justice qui se fassent sans tous les acteurs de la chaîne pénale. Donc j'ai cru entendre ce matin que jusqu'aux policiers, on serait en tout cas associés aux travaux. Je pense qu'il faut réfléchir collectivement. Au quotidien, les avocats, les magistrats, les procureurs, on se fréquente, on travaille ensemble, on connaît moins la justice du siège qui est moins accessible. Il y a des choses à faire pour décloisonner. S'il n'y a pas des grandes décisions... et qu'il n'y a pas besoin d'un autre quinquennat pour les lancer. Toiletter le code de procédure pénale, quand je vous dis que c'est comme si on avait un annuaire qui n'était pas dans l'ordre alphabétique, c'est la réalité. Un procédurier aujourd'hui ne peut plus faire un acte de procédure sans risquer le vice de procédure, donc l'erreur judiciaire, parce qu'il y a une faute de forme et non pas de fond. Bon, premier point, s'il n'y a pas des décisions sur les cadres d'enquête pour simplifier les choses, s'il n'y a pas des mesures très concrètes qui soient des mesures, non pas pour faire plaisir aux policiers, on ne demande pas des faveurs, on demande des outils de travail qui permettent de traiter la délinquance pour répondre aux victimes. Aujourd'hui, une victime, elle a conscience que son affaire ne peut ne pas être résolue. Elle accepte ce principe-là. En revanche, elle n'accepte pas.
Elle
le comprend. Elle dit pas que. Elle nous dit. En revanche, qu'elle ne comprend pas, c'est qu'elle n'ait même plus de nouvelles de son dossier. On a des gens, des justiciables aujourd'hui, ils n'ont pas de réponse suite à leur plainte parce que tout le monde est noyé. Il n'y a pas que les policiers qui sont noyés. Les magistrats, substituts ou juges d'instruction. D'ailleurs, j'entends parler de la suppression du juge d'instruction. Pourquoi pas? Mais attention, ça veut dire qu'il y a des cadres d'enquête qui vont disparaître. S'il y en a qui disparaissent, ça peut être de la simplification. Ça peut être aussi dangereux. Donc, c'est vraiment un chantier essentiel pour l'avenir, je dirais, de la réponse pénale dont on fait tous partie.
Jean-Claude Dacier.
Et pour la démocratie dans ce pays.
Bien sûr.
Mais la difficulté, c'est de généraliser. Il y a beaucoup de gens très bien dans la justice, beaucoup de magistrats excellents. Simplement, il y a un pourcentage, dont j'ignore le montant, qui sont des gens de gauche ou d'extrême gauche, et qui ne voient pas, qui n'acceptent pas la société telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, et prennent des décisions qui sont des décisions, encore une fois, ils s'arrangent avec le droit. Il dit ce qu'il pense de tout ça, et vous avez, pour ça je ne vais pas répéter ce qu'ont dit mes amis, en politique, vous avez assisté par exemple avec l'élection de 2017 et la sortie à un rythme plus qu'accéléré de Fillon, à une intrusion, à une captation de l'élection présidentielle par la justice. C'est quand même pas normal. Je ne reviens pas sur le mur des cons qui ne fait que témoigner, il n'y a pas eu de sanction ou très peu, pour la forme. La justice, ils sont jamais responsables de rien. Les magistrats qui déconnent à plein boyau et qu'ils le savent, ils ne seront jamais sanctionnés. La lenteur de la justice, c'est vrai que c'est une question de moyens, mais pas seulement. Vous avez aussi des démarches qui consistent à, sans le moindre acte d'instruction, vous avez, alors est-ce que c'est l'embouteillage ou est-ce que c'est la volonté politique, de laisser les décisions ne pas intervenir pendant 6, 7, 10 ans. Est-ce que c'est normal? Non. Vous avez aujourd'hui, et c'est pour ça que je suis un peu pas pessimiste sur les travaux de ces états généraux de la justice, mais vous avez comme une situation, c'est peut-être de la faute du président, mais vous avez une situation où les magistrats ne peuvent pas supporter leur garde des Sceaux. Ça ne va pas faciliter l'esprit de réforme.
Il ne faut pas généraliser non plus.
Mais personne ne généralise. Et là, c'est quand même une solution. Je peux vous citer, si vous le voulez, la responsable du syndicat de la magistrature, secrétaire général, qui l'a dit ce matin même. Donc vous avez une lutte politique à l'intérieur du système qui fait que tout ça est extrêmement compliqué. J'espère qu'on prendra quand même des décisions qui vont dans le bon sens. Mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire.
On aura le temps de les faire en 6 mois? Évidemment non, commissaire Lebarre.
Mais vous voyez, il me vient un exemple. On ne touche pas en France et dans la République aux policiers, aux gendarmes, aux pompiers, aux professeurs. Si on veut sacraliser ce principe et qu'on veut considérer que ça, on n'y touche pas, ben, par exemple, la réponse, c'est les peines planchers pour les agresseurs de policiers, de magistrats,
d'enseignants. Des voilà.
Par exemple, s'il n'y a pas des mesures concrètes pour donner les symboles et les guides essentiels à la délinquance, on continuera encore à phosphorer sur la réponse pénale. J'ajoute à ça que côté police, tout comme côté justice, des livres blancs, des assises, des Beauvau. Je pense que maintenant, on peut aller piocher dans les différents documents des uns et des autres. Je crois qu'on a tous une idée de la réponse. Donc maintenant, la balle est dans le camp politique.
Donc là, on occupe quoi le terrain avec ces états généraux de la justice?
C'est jamais mauvais de réfléchir, mais il faut aussi de l'action.
Une consultation citoyenne. La joie, elle a été.
Non, mais les lois, elles existent. Enfin, je veux dire, vous parliez des sanctions plus importantes quand un policier est agressé ou un gendarme, tout ce qui représente l'autorité publique. La loi, elle existe pour ça. Vous avez la loi de sécurité globale qui a été votée récemment. Vous avez également la loi confortant les principes républicains où, là encore, vous avez des mesures qui sanctionnent plus sévèrement à partir du moment où vous menacez des personnes qui ont une délégation de service public. Donc, la loi, elle existe. Après, il faut l'appliquer, cette loi. Il faut l'appliquer. Et c'est là où le bât blesse parfois.
Gabrielle, un dernier mot sur la justice.
Oui, c'est vrai qu'on a l'impression qu'on assiste à une nouvelle concertation. Alors, on peut l'appeler table ronde, on pourrait l'appeler Beauvau, tout ce qu'on veut. On trouve à chaque fois des nouveaux noms.
État généraux, c'est bon, mais
ça, c'est pas forcément bien terminé pour tout le monde à la fin.
Non.
Mais on pourrait trouver d'autres noms. À chaque fois, on en invente, grand débat, convention citoyenne, etc. Mais on a l'impression qu'on noie un peu le problème. D'ailleurs, on s'est bien rendu compte, ça m'a frappé avec la crise sanitaire, que quand on veut prendre des décisions fortes, le gouvernement se réunit en tout petit comité. Il ne va pas demander l'avis de 80 personnes. Donc, en faisant de la concertation. Donc là, à mon avis, et le vrai nœud du problème, c'est qu'on parle beaucoup, mais il faudrait à un moment agir. Moi, il y a un autre sujet dont je voulais parler, c'est que je trouve qu'il y a peu de transparence sur les résultats de la justice.
Absolument.
On entend beaucoup.
C'est le fameux observatoire de la réponse pénale que les policiers réclament.
Observatoire de la réponse pénale,
exactement.
Oui. Ça devrait démarrer.
Exactement. Et les Français, quand même, c'est leurs impôts vont dans la justice. Ils ont besoin de savoir ce qui s'y passe, comment les décisions sont rendues, de quelle façon, qui est condamné. Et à chaque fois que nous sommes sur ce plateau, nous commentons des faits divers terribles, mais finalement, nous ne savons pas très bien comment ça se termine. Et je trouve que les Français ont le droit de le savoir.
Le commissaire Lebars, effectivement, réponse pénale, elle va exister. Enfin, l'observatoire, en tout cas.
Et il faut une transparence totale. Ce qui fera du bien d'ailleurs aux forces de l'ordre, parce qu'on est souvent montré du doigt pour une inaction ou une action supposée trop répressive, etc. Vous le savez, je plaide aussi pour des statistiques ethniques au sens large, pour qu'on sache qui sont nos délinquants, évidemment, qui sont les auteurs d'infractions, d'où ils viennent, comment ils agissent, qui est en prison, qui est condamné. Ça évitera aussi le sujet d'accusations en racisme systémique. Il faut une transparence totale. D'ailleurs, je m'étonne qu'on soit quasiment les derniers en Europe à avoir un tabou sur ce sujet-là. Ça ferait du bien à tout le monde.
Merci à tous les quatre d'avoir participé à ce Punchline sur CNews et sur Europe 1. Dans un instant, c'est Christine Kelly qui vous attend pour Face à l'info avec ses invités. Et nous, dans un instant, on se retrouve sur Europe 1 pour le journal de 19h. On reviendra sur ces menaces de mort contre un couple d'enseignants à Marseille. A tout de suite sur nos deux antennes.
Europe 1, 18h-20h.
Punchline, Laurence Ferrari.
Il est 19h, si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1, bienvenue à tous et à toutes. Dans un instant, Valérie Pécresse est l'invitée exceptionnelle de Punchline, ce sera le grand oral. J'aurai le plaisir de l'interviewer avec Bruno jeudi. Mais tout de suite, c'est le journal avec vous, Hélène Zellani. Bonsoir Hélène.
Bonsoir Laurence, bonsoir à tous.
La hausse des carburants, cela continue et cela inquiète de plus en plus le gouvernement qui réfléchit à la mise en place d'un chèque carburant.
Trop lente, pas assez sévère. Emmanuel Macron vient de lancer les états généraux de la justice à Poitiers. Objectif, remettre à plat le système judiciaire pour 2022 et au-delà. Quand Jean Castex rencontre Pontifex, le Premier ministre a discuté avec le pape François à Rome, notamment sur le récent rapport Sauvé. Et puis la mort de Colin Powell, le secrétaire d'État américain sous la présidence de George W. Bush, avait justifié l'intervention en Irak.
Un mot de la tendance météo, Marlène Duret, avec des températures exceptionnelles.
Oui, elles s'envolent carrément dans le sud-ouest. Demain, ce sera une très belle journée ensoleillée. La météo complète, c'est à la fin du journal.
Europe 1.
Le prix des carburants en hausse ininterrompue, encore 2 centimes en moyenne la semaine dernière et de nouveaux records pour le gasoil.
Oui, pour les Français qui roulent beaucoup, ça commence à représenter des sommes vraiment conséquentes. Le gouvernement réfléchit donc aux moyens d'amortir le choc pour les plus modestes. Bruno Le Maire était ce matin l'invité d'Europe 1. Maud Descamps, le ministre de l'économie, a dit sa préférence pour un chèque plutôt que pour une baisse de la fiscalité.
Oui, le ministre de l'économie a plaidé ce matin pour un coup de pouce sous forme de chèque. Pour lui, baisser la fiscalité coûterait trop cher à l'État pour peu d'effets à la pompe.
Un centime de baisse du litre de carburant, c'est un demi-milliard d'euros. Mmh. Donc vous voyez bien que c'est très coûteux pour un résultat que les Français ne verront pas. En deuxième lieu, c'est injuste. C'est-à-dire que celui qui prend un gros 4x4 très motorisé qui fonctionne au diesel recevra la même compensation financière de l'État qu'une aide-soignante qui est obligée de prendre sa Clio pour sillonner les routes et faire son travail d'aide-soignante.
Cibler les bonnes personnes, c'est toute la difficulté de ce chèque carburant. Contrairement au chèque énergie, il est compliqué d'identifier les Français qui en ont réellement besoin, ceux qui ont vraiment besoin, par exemple, de leur voiture pour aller travailler. En tout cas, la hausse des dépenses pour le carburant est réelle pour les ménages. Sachez qu'aujourd'hui, vous payez votre plein de diesel 10 euros de plus qu'en janvier dernier. Et comme on dit que les Français font en moyenne 2 pleins par mois, ce sont 20 euros de plus par mois consacrés au carburant.
Voilà, somme vraiment conséquente. Hein. Maud Descamps du service économie d'Europe 1, suspense côté gouvernement. Mais de leur côté, les centres Leclerc ont déjà entendu l'appel de Barbara Pompili et vendent désormais le carburant à prix coûtant dans toutes leurs stations-service hors autoroute, et cela jusqu'à la fin du mois.
Remettre la justice au cœur de la société. Emmanuel Macron vient de lancer les états généraux de la justice à Poitiers.
Oui, 5 mois de consultation. Tous les citoyens peuvent participer. À la clé des propositions pour améliorer notre système judiciaire. Et de toute évidence, le président se projette au-delà de 2022. Stéphane Place assistait au coup d'envoi de ces états généraux pour Europe 1.
Parfois un peu inaccessible.
Réinsertion.
Protection.
Compliqué.
Laxiste.
Petit clip d'introduction avec des témoignages de justiciables pour ouvrir ces états généraux ici au Palais des Congrès de Poitiers. Après avoir rappelé que le budget de la justice avait fait un bond de 30% durant son quinquennat, permettant de franchir le cap des 9000 magistrats, Emmanuel Macron a expliqué qu'il attendait des propositions concrètes de cette grande consultation.
Une phase nouvelle, celle de la modernisation de notre justice, et avec deux principaux objectifs. Celui de restaurer le pacte civique entre la nation et la justice. Le second, de garantir l'efficacité du service public de la justice.
Ce sont les deux plus hauts magistrats de France qui, voyant l'institution judiciaire sévèrement et régulièrement attaquée, ont réclamé au chef de l'État l'organisation de ces états généraux. François Molins, c'est le procureur général de la Cour de cassation.
On avait dit au président qu'il fallait à tout prix remettre la justice au cœur de la société. Je pense que le discours du président, il a été très ouvert. Il couvre l'ensemble des champs. La demande, c'est de réfléchir dans tous les champs du possible, sur tous les grands thèmes. Il faut plus de moyens, c'est certain, mais ce n'est pas qu'une question de moyens.
Et chacun peut s'exprimer depuis ce soir, proposer en passant par la plateforme désormais accessible sur Internet et baptisée Parlons Justice.
Stéphane Place à Poitiers pour Europe 1. La justice, justement, ouverture aujourd'hui du procès des sondages de l'Élysée sous Nicolas Sarkozy. 5 anciens proches, dont Claude Guéant, comparaissent, mais pas l'ancien président, protégé par son immunité. Son cabinet est accusé d'avoir commandé des sondages pour plus de 7 millions d'euros sans appel d'offres, certains auprès d'entreprises appartenant à ses conseillers. Et puis 2 enseignants menacés de mort à Marseille, ils sont placés sous protection. Une enquête est ouverte. Le couple a reçu par courrier une photo de Samuel Paty, puis une lettre de menace de mort. Encore une autre samedi dernier, un an jour pour jour après l'assassinat de l'enseignant. Selon le parquet de Marseille, à ce stade de l'enquête, rien ne permet de relier ces faits à un cours qu'aurait donné un des deux professeurs.
Un peu plus d'une demi-heure d'entretien ce matin entre Jean Castex et le pape François au Vatican.
Oui, un rendez-vous prévu de longue date, mais qui intervient quelques jours après la publication de l'accablant rapport Sauvé sur la pédocriminalité au sein de l'Église. Jacques Serret, vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 à Rome. On sait quelle a été la teneur de leurs échanges.
Oui, et le rapport Sauvé a bien fait partie de leur discussion. Le sujet n'a pas été éludé. Le pape était très informé, me confiait un proche du Premier ministre. Et lors de cet échange, le souverain pontife a indiqué au locataire de Matignon qu'il faisait confiance à l'Église de France pour tirer des conclusions. Le pape s'est aussi réjoui qu'il n'y ait pas de déni au sujet des abus sexuels dans l'Église. Autre point sensible, le secret de la confession. Il faut trouver les voies et les moyens pour concilier cela avec le droit pénal et le droit des victimes, a dit le Premier ministre au pape. Jean Castex est d'ailleurs revenu sur ce point cet après-midi au milieu d'un discours pour le centenaire du rétablissement des relations diplomatiques entre la France et le Vatican.
La séparation de l'Église et de l'État, chacun le sait, ce n'est en aucun cas la séparation de l'Église et de la loi.
Un petit coup de pression de la part du Premier ministre qui, hors micro, fait tout de même savoir que cet échange était remarquable et apaisant. J'ai trouvé un pape joyeux, dynamique et avec de l'entrain, résume Jean Castex.
Merci Jacques Serret, en direct de Rome.
On l'appelait le général diplomate Colin Powell, est mort des suites du Covid à 84 ans.
Oui, figure de l'armée et de l'administration américaine entre les années 80 et 2000. On se souviendra surtout de son discours devant l'ONU, c'était en 2003. Alexis Guilleux, vous êtes le correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. Il avait alors présenté de fausses preuves pour justifier l'intervention militaire en Irak.
Oui, le 5 février 2003, Colin Powell se présente devant le Conseil de sécurité de l'ONU, fervent défenseur d'une intervention en Irak. Le chef de la diplomatie américaine brandit une fiole d'anthrax devant ses homologues, preuve selon lui que le régime de Saddam Hussein produit des armes de destruction massive.
Nous avons des descriptions de première main d'usines mobiles d'armes biologiques qui permettent d'éviter la détection par les inspecteurs de l'ONU. Il ne fait aucun doute que Saddam Hussein possède des armes biologiques. Il a la capacité d'en produire plus, beaucoup plus.
Un mois plus tard, les États-Unis envahissent l'Irak sans l'aval de l'ONU. Aucune trace de ces armes biologiques. En 2005, Colin Powell fait part de ses regrets sur CNN.
Je le regrette parce que les informations étaient fausses. Bien sûr que je le regrette. Mais il n'y a pas un mot dans ce discours qui n'ait été approuvé et validé par la communauté du renseignement.
Alors Colin Powell reste une figure populaire aux États-Unis. Après une jeunesse dans le Bronx, il devient le premier afro-américain chef d'état-major des armées pendant la guerre du Golfe. Dans les années 90, il hésite à se lancer dans la course à la Maison-Blanche avant de rejoindre l'administration de George W. Bush. L'ancien président salue aujourd'hui un grand serviteur de l'État. Colin Powell avait ensuite pris ses distances avec le Parti républicain en apportant son soutien à Barack Obama, Hillary Clinton et Joe Biden.
Alexis Guilleux à New York pour Europe 1 et réaction ce soir du président Joe Biden, patriote et enfant d'immigrés. Il représentait les idéaux les plus élevés de la diplomatie et de l'armée. Une minute de silence au Parlement britannique à la mémoire du député David Ames, assassiné vendredi à coups de couteau. La police suspecte un acte terroriste potentiellement islamiste. Le suspect qui a été arrêté est un Britannique d'origine somalienne qui avait suivi un programme de déradicalisation. Une messe se tient en ce moment à l'abbaye de Westminster. Et puis un mot de foot, pas de Neymar sur la pelouse du Parc des Princes demain. La star brésilienne du PSG est blessée aux adducteurs et déclare donc forfait pour la rencontre contre Leipzig en Ligue des Champions.
Un mot de la météo avec vous, Marlène Duré. Marlène, a un début de semaine tout en douceur.
Et oui, les 26 degrés ont été atteints cet après-midi sous un beau soleil d'octobre à Biarritz. C'est un degré de plus que la moyenne hein, au cœur de l'été. 26 également à Pau, Mont-de-Marsan. Ça contraste avec les 10 degrés relevés à Strasbourg. Et demain, la hausse des températures va se poursuivre avec 18 à 22 degrés sur le quart nord-est et généralement 22 à 26 sur le reste du Péri. Et il fera jusqu'à 26-28 en Aquitaine et dans les Charentes, jusqu'à 30 degrés même au pied des Pyrénées. C'est de l'air quasi tropical en fait qui nous arrive de l'Atlantique, hein, des Antilles plus précisément, qui a traversé l'Atlantique. Et c'est conjugué à un effet de feu. Donc voilà ce qui explique. Gare au rafraîchissement brutal, en tout cas pour jeudi et vendredi. Côté ciel, les pluies arrivées aujourd'hui dans les régions du Nord-Ouest continuent leur traversée vers la région parisienne où il devrait pleuvoir ce soir entre 20h et 22h. Elles vont gagner ensuite le Nord-Pas-de-Calais vers minuit et longer les frontières du Nord-Est en fin de nuit. Donc on va les retrouver plutôt en matinée de ce côté-là. Et puis on a aussi des entrées maritimes poussées par le vent d'autan vers le golfe du Lion jusque dans le midi toulousain en matinée et puis vers le Haut-Languedoc. Ça va durer toute la journée. Partout ailleurs, ce sera une belle journée ensoleillée, temporairement ensoleillée, puisqu'on change de régime à partir de mercredi, Laurence.
Merci beaucoup, Marlène, pour la météo. Merci, Hélène Zellani. On se retrouve demain à 19h pour le journal. Et tout de suite, Valérie Pécresse est l'invitée spéciale de Punchline. Le grand oral de Punchline, c'est tout de suite. Ne bougez pas.
Europe 1. Punchline. Laurence Ferrari.
Et dans Punchline, nous sommes évidemment en direct avec Valérie Pécresse. Bonsoir Valérie Pécresse.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous, candidate à l'élection présidentielle. Bruno Jeudy est là de Paris Match.
Bonsoir
Bruno. C'est le grand oral de Punchline. Oui, pardon, je vous ai un peu coupé la parole, mon cher Bruno. On lance cette nouvelle formule en recevant les candidats à l'élection présidentielle. Merci d'être la première à avoir répondu présente, Madame Pécresse. L'actualité, c'est d'abord ces deux enseignants qui ont été menacés de mort à Marseille. Ils sont placés sous protection, une enquête est en cours, ils ont reçu plusieurs courriers extrêmement menaçants, reçu une photo de Samuel Paty. Aujourd'hui, plus personne n'est à l'abri de ce type de menace, que l'on soit professeur ou enseignant. C'est un véritable problème pour vous ?
C'est un véritable problème. Et vous savez, j'ai passé mon samedi dans les villes qui ont été marquées dans leur chair par l'assassinat barbare de Samuel Paty, Erani, Conflans-Sainte-Honorine, avec des témoignages bouleversants d'enseignants. Une enseignante de maternelle du Val d'Oise qui m'a dit que dès la maternelle aujourd'hui, elle se faisait insulter par des élèves qui ont à peine 3 ou 4 ans. Donc je crois que... Et puis évidemment, ils m'ont parlé aussi du problème qu'ils ont avec les parents qui aujourd'hui ne sont pas toujours en soutien des enseignants. Donc il y a un très fort malaise aujourd'hui de nos enseignants qui vont parfois enseigner avec la peur au ventre et qui ont besoin de sentir le soutien indéfectible de toute la nation derrière eux. Ça va des élèves, bien sûr, mais les parents, et puis nous, les citoyens, et nous, les politiques.
Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui ?
Non, je dis.
Le président avait rendu un hommage, on se souvient, assez vibrant et évidemment bienvenu pour l'enseignant Samuel Paty. Jean-Michel Blanquer a aussi demandé des minutes de silence. Il y a eu aussi des hommages un an plus tard. La nation semble rassemblée quand même derrière Samuel Paty. C'est pas
vous
votre
savez,
sentiment ?
À côté des hommages, il y a la vie quotidienne. Et dans la vie quotidienne, malheureusement, nos professeurs ne se sentent pas suffisamment protégés, tout simplement. Il y a beaucoup de violence dans les classes. Cette violence, elle est passée sous silence. Vous savez, c'est le fameux pas de vague. Mmh. Et si vous regardez les statistiques données par le ministère de l'Éducation nationale sur les atteintes à la laïcité, moi, il y a quelque chose qui m'a frappée. C'est que dans les quartiers qu'on peut intuitivement imaginer soumis à de la pression communautariste, c'est là qu'il y a le moins de signalement d'atteinte à la laïcité.
Et pourquoi,
à mon avis, c'est parce qu'il y a une forme de loi du silence. C'est-à-dire que dans un certain nombre d'écoles, dans un certain nombre de collèges et de lycées, on n'enseigne plus vraiment la Shoah. On a du mal
donc
avec l'éducation sexuelle. On s'auto-censure. Les professeurs s'auto-censurent pour ne pas se retrouver
oui,
devant les problèmes.
Temps, en même temps, Mme Pécresse, dans votre région, en Seine-et-Marne, il y a quelques jours, il y a eu cette scène d'un élève qui a malmené, brutalisé une enseignante, une sortie de classe qui a été filmée sur les réseaux sociaux, et il y a eu condamnation immédiate. Donc le syndrome pas de vague, on peut le contester, on peut dire que ça s'est amélioré.
Mais vous savez, quand ça passe à la télévision, tout change. Et c'est ça qu'on me dit sur le terrain. Quand ça passe à la télévision...
Ou sur les réseaux sociaux.
Ou sur les réseaux sociaux, à ce moment-là, comparution immédiate. Ben, regardez le président de la République gifler, comparution immédiate, emprisonnement immédiat. Ça ne se passe pas comme ça au quotidien pour tous ceux qui se font insulter. Et c'est pour ça que moi, je demande le retour des peines planchers. Et je demande, demande l'obligation aussi de poursuivre. Parce que je me suis rendue il y a quelque temps dans un quartier sensible de Lyon où des policiers s'étaient fait agresser, classement sans suite. Dans la Drôme, un maire agressé par un habitant, classement sans suite, parole contre parole. Des exemples comme ça, on peut les multiplier. Donc on a aujourd'hui malheureusement un sentiment d'impunité très très fort et le sentiment pour des personnes qui doivent avoir autorité, les enseignants, les forces de l'ordre, les élus, les médecins, les pompiers... sentiment qu'ils sont laissés livrer à eux-mêmes. Il y a quelques mois, j'étais à Étampes, des pompiers se sont fait tirer dessus à balles réelles un 14 juillet. Voilà. Et ils m'ont dit, c'était déchirant, ils m'ont dit, ça fait des années qu'on se fait caillasser, personne ne dit rien. On se fait insulter, personne ne dit rien. Maintenant, on nous tire dessus à balles réelles. Quand est-ce que la nation va réagir ?
C'est un problème d'autorité dans les classes, c'est un problème de communautarisme. Les agressions de professeurs dont vous parliez, même en maternelle, ils sont dus à quoi ?
Il y a un vrai problème de discipline et d'autorité aujourd'hui dans les classes. Les enfants sont de moins en moins sages. Il y a des phénomènes de bandes avec des meneurs. Donc ce que je propose, c'est simple, c'est d'abord de renforcer la discipline dans les établissements et ce n'est pas aux enseignants à faire la discipline. Donc il faut des vraies équipes de surveillants. Moi-même, dans ma région, j'étais obligée de recruter des brigades régionales de sécurité pour sécuriser les abords des établissements face aux intrusions de bandes, hein, les bandes rivales entre quartiers.
Mais là, en l'occurrence, c'est à l'intérieur des classes.
Oui, dans la classe.
Non, mais ces brigades régionales peuvent aussi rester dans les établissements. Et quand il y a un problème dans la classe, il faut des sanctions disciplinaires. Et puis, vis-à-vis de tous ces jeunes qui enfreignent la discipline, il faut des sanctions éducatives.
Et des poursuites judiciaires ?
Des sanctions éducatives. Les sanctions éducatives pour les mineurs, c'est l'équivalent des poursuites judiciaires pour les majeurs. Des sanctions éducatives très rapides. Le problème, c'est que notre justice, elle est thrombosée. Elle est complètement embolisée. L'autre jour, j'étais à Créteil avec le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, parce que la BAC de Créteil s'était fait caillasser par une bande de 40 jeunes de moins de 15 ans. Bon. Et parmi ces jeunes, il y en avait quelques-uns qui étaient très connus de la justice, mais qui n'avaient pas encore été condamnés, alors que ça faisait un an qu'ils avaient été dénoncés. On a un stock d'affaires non jugées. Et moi, je demande, puisque c'est les états généraux de la justice en ce moment, je demande qu'on fasse une opération vérité. Combien y a-t-il de mois, d'années d'affaires en stock non jugées dans les tribunaux. Et comment est-ce qu'on fait pour écluser ce stock ?
C'est Vous avez une idée du pourcentage ? C'est quoi ? On est à 20-30% ?
Ah ben non, mais c'est surtout un an, deux ans de jugement pas encore passé. En matière civile, on estime que c'est deux ans à peu près. En matière pénale, ça doit être entre un et deux ans. Donc le sujet, il est simple. Il faut un plan hors sec pour la justice. Il faut y mettre le paquet. Il faut des délais impératifs de jugement. Et il faut que dans les flagrants délits, comme ça a été le cas à Comble-la-Ville, comme ça a été le cas pour le président de la République, quand il y a un flagrant délit, il faut une comparution immédiate. Et il faut un jugement immédiatement exécuté. Alors pour l'exécution des jugements, il faut mettre en place les peines. Les travaux d'intérêt général, 450 jours.
Stage de citoyenneté.
450 jours pour exécuter. Oui, stage de citoyenneté, j'allais dire, c'est très petit par rapport à ce qu'il faudrait faire. Pour moi, c'est tu casses, tu répares. Et par ailleurs, vous savez, il faut aussi que quand des amendes sont prononcées, elles puissent être recouvrées. Aujourd'hui, il y a l'insaisissabilité des minima sociaux. Ça veut dire que, par exemple, un dealer qui est au RSA et qui deal, qui son revenu lui vient de ses trafics, s'il est condamné à indemniser une de ses victimes, quelqu'un qui l'aurait tabassé, quelqu'un dont il aurait cassé la voiture, il va dire « Ah non, mon RSA est insaisissable ». Donc je propose la saisissabilité des minima sociaux pour les amendes.
On fait une petite pause. On se retrouve dans un instant avec vous, Valérie Pécresse. C'est le grand oral de Punchline. On va parler de pouvoir d'achat, de hausse des tarifs de l'essence. Quelle solution ? On en débat dans un instant. À tout de suite.
Punchline sur Europe 1, Laurence Ferrari.
On se retrouve sur Europe 1 avec Valérie Pécresse, notre invitée exceptionnelle ce soir dans le grand oral de Punchline. Bruno Jeudy, Paris Match pour vous interviewer. Madame Pécresse, la question du pouvoir d'achat est centrale, évidemment, en ce mois d'octobre. La flambée des prix du carburant, 2 centimes par litre juste pour la semaine dernière. Quelle est la solution ? Le gouvernement hésite, n'a pas trouvé encore de réponse assez rapide à un problème qui peut devenir explosif. Un chèque carburant, une baisse des taxes, quelle est votre solution ?
Aujourd'hui, il y aurait des solutions déjà pour assouplir les possibilités d'aide. Je m'explique. Si une entreprise veut aider un de ses salariés qui vient de loin et en lui donnant un forfait kilométrique supplémentaire défiscalisé, elle ne peut pas le faire. C'est l'enfer bureaucratique français. On a Bercy qui fixe chaque année des grilles, des indices d'indemnité kilométrique qu'on peut donner, facultatif bien sûr, mais en fonction de la voiture, en fonction de son... Enfin, voilà, l'enfer bureaucratique. Si simplement on disait, là... ponctuellement, pendant les 3 ou 4 mois où l'essence va être très chère, on autorise les entreprises à donner un petit avantage défiscalisé à leurs salariés pour les aider, un coup de pouce, eh bien ce serait tout simple.
Donc là, on délègue aux entreprises le...
Non mais juste, on libère les énergies, ceux qui ont la possibilité de donner, donnent. Vous voyez, dans les collectivités, on pourrait le faire aussi. On n'a pas le droit de le faire. Donc vous voyez, tout ce système de l'enfer bureaucratique français qui fait que, face à une situation comme celle-là, personne n'a le droit de prendre une initiative parce que tout est verrouillé, que la loi nous en empêche, c'est très dommage. En plus, il faudrait, si on veut faire un chèque, il faudrait penser aussi à tous les tarifs réglementés. Les infirmières, par exemple, leur indemnité kilométrique, elle est forfaitaire. Donc, si on veut les aider, il va falloir libérer tout ça. En fait, comme tout est réglementé dans notre pays, on a du mal, face à ces situations, à faire des choses un petit peu librement. Voilà.
Et évidemment. Et au niveau de l'État, qu'est-ce qu'on fait ?
Au niveau de l'État, je pense que le plus simple, c'est effectivement le chèque essence. Mais vous voyez bien dans quoi on est en train de tomber. On est à 6 mois des élections et c'est parce qu'on est à 6 mois des élections
chèque que le président énergie, de la République chèque carburant.
Fait un chèque toutes les semaines, le chèque énergie, le chèque carburant, le blocage du prix de l'électricité. Bon, avec Emmanuel Macron, on a bien compris que c'était l'addition après l'élection.
Ouais. En même temps, ok, on peut comprendre que vous contestiez l'idée du chèque. Vous seriez plus favorable à la baisse des taxes ?
Non, je ne conteste pas l'idée du chèque. Je dis qu'un chèque par semaine, ça fait beaucoup. Oui. Et que,
enfin, un chèque pour les policiers, vous êtes pour. Un chèque pour les agriculteurs, vous êtes pour. Chèque pour les sages-femmes, vous êtes pour ?
Oui, mais à un moment donné, il va falloir faire l'addition de tout ça. Et ce qui m'inquiète, c'est d'avoir un budget... Le Haut Conseil des Finances Publiques a refusé, pour la première fois, je crois, dans l'histoire, de se prononcer sur le budget, parce qu'il considère qu'il n'est pas sincère.
Vous dites que ce budget n'est pas sincère ?
Il est incomplet.
C'est la même chose.
Oui, mais enfin, incomplet et pas sincère. Un complet, c'est une façon pudique de dire pas sincère. C'est un complet, ça veut dire qu'on n'a pas toutes les dépenses et qu'on n'a pas toutes les recettes. Donc ça veut dire qu'il est insincère. Donc le budget est aujourd'hui incomplet. On ne sait pas combien l'État va dépenser. Dans une période électorale, ça ne se fait pas. J'ai été ministre du budget en 2011-2012, la dernière année du quinquennat Nicolas Sarkozy. On avait fait une loi de finances qui était impeccable parce que on le devait aux Français et on avait fermé toutes les vannes des dépenses parce qu'on était en pleine crise des dettes souveraines.
Alors justement, vous avez accusé le gouvernement d'avoir cramé la caisse. C'était votre expression.
Pas de l'avoir, de la cramer.
Parce de que la cramer, voilà.
C'est pas fini.
On va juste écouter la réponse de Bruno Le Maire. Il était ce matin l'invité d'Europe 1 chez Sonia Mabrouk.
Vous parliez de Valérie Pécresse. Elle nous dit ils vont cramer la caisse. Bon, d'abord, je ne sais pas très bien ce que veut dire cette expression. On a protégé les Français. Si elle voulait qu'on ne protège pas les Français pendant la crise, qu'elle l'assume. Mais l'argent qui a été dépensé, comme elle dit, cramer la caisse, 16 points de dette publique en plus, c'était pour protéger les salariés, pour protéger les compétences, pour protéger les entreprises. C'est ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir un taux de chômage inférieur à celui d'avant la crise et un taux de faillite, un nombre de faillites inférieur à celui d'avant la crise. Si on appelle ça cramer la caisse, je ne suis pas d'accord.
Alors voilà, Valérie Pécresse, Bruno Le Maire. Est-ce que vous lui répondez ?
Je vois que je l'ai fâché, à juste titre. Je l'ai fâché parce que le problème, c'est qu'il ne protège pas les générations futures. Vous savez, François Bayrou, qui aujourd'hui soutient ce gouvernement, avait fait toute une campagne, il y a une dizaine d'années, pour dire « alerte à la dette ». Parce qu'une dette de 117% du PIB, plus 200 milliards de déficit, c'est des impôts différés. Quand je vous disais que l'addition serait après les élections, c'est qu'aujourd'hui, on a un gouvernement, un président qui s'occupe plus de l'élection future que de la génération future. C'est une dette que nous allons léguer à nos enfants. Cette dette, elle a augmenté de 8 000 euros par Français pendant le quinquennat. Alors oui, bien sûr, il fallait amortir la crise, c'est sûr. Mais est-ce que vous avez vu ce rapport du Conseil d'analyse économique qui dit que nous avons été 26e sur 38 pour le coût de la crise Covid. Ça veut dire qu'en réalité, nous avons dépensé plus dans cette crise que nous n'aurions dû. D'ailleurs, je pense que dans le premier confinement, on a confiné tout le pays. Si on avait régionalisé le confinement, il y aurait eu des centaines de milliers d'entreprises qui n'auraient pas fermé pendant le premier confinement.
On va faire une petite pause. On se retrouve dans un instant avec vous, Valérie Pécresse. On évoquera votre candidature au sein des Républicains. Quelle présidente seriez-vous ? Je vous pose la question dans un instant. À tout de suite.
Europe 1, Punchline, Laurence Ferrari.
Et dans Punchline, notre invitée exceptionnelle, c'est Valérie Pécresse. On est toujours avec Bruno Jeudy du Paris Match, pardon. Valérie Pécresse, demain, vous allez prendre un petit déjeuner dans la joie et la bonne humeur avec les 5 autres candidats à cette primaire, puisqu'on veut parler de primaire maintenant des Républicains. Vous avez rendez-vous avec Christian Jacob. À quoi cela rime d'avoir repris votre carte aux Républicains ? Est-ce que ça veut dire que votre mouvement libre n'a servi à rien ? C'était un feu de paille ?
À partir du moment où les Républicains me tendent la main, en acceptant que je puisse être leur candidate à la présidentielle, il était assez logique que je saisisse cette main tendue. D'autant plus que, comme vous le savez, dans cette primaire, pour voter, il faut adhérer. Donc, ça veut dire
que... Vous étiez coincé.
Non, ça veut dire qu'aujourd'hui, toutes les personnes qui veulent voter pour moi, je leur dis adhérer aux Républicains. Et donc, cette ligne politique qui consiste à faire des Républicains le pilier de l'alternance et de la reconquête face à Emmanuel Macron, ben cette stratégie, je me l'applique à moi-même. Il faut être cohérent. Donc je ne peux pas demander à mes supporters d'adhérer pour voter avant le 15 novembre. D'ailleurs, je le dis ici ce soir, parce que beaucoup de Français croient que c'est une primaire fermée. Non, c'est une primaire où on peut adhérer si on partage les valeurs de la droite jusqu'au 15 novembre.
Combien de vos supporters justement ont adhéré depuis la semaine dernière
parce que ça, je ne le sais pas. Pour adhérer, il faut partager les valeurs de la droite.
87 000 adhérents lundi dernier.
Il faut partager les valeurs de la droite et avoir envie de désigner le candidat de la droite. C'est une opportunité qui est offerte à tous ceux qui adhèrent.
Valérie Pécresse, c'est une primaire en vérité. Ça y est, c'est plus un congrès. On est passé, c'est une primaire. Vous pouvez me le dire.
Moi, je voulais une primaire plus large. Je voulais une primaire comme celle de 2016, dans laquelle on aurait pu faire venir tous les sympathisants, y compris du centre, parce que moi, je voulais qu'on s'élargisse le plus possible, qu'on ait le plus d'élan possible. Mais tous ceux qui réadhéreront d'ici le 16 novembre donneront de l'élan à l'alternance. Et c'est ça le message.
D'accord. Mais ça restera une élection quand même relativement fermée, puisqu'il faut adhérer aux Républicains. Est-ce que vous redoutez une élection sous influence ? Je m'explique. On sait que ce parti est encore très marqué par la présidence de Laurent Wauquiez, qui n'est pas un de vos amis. On sait qu'un certain nombre de sarkozystes ne goûtent guère le fait que vous soyez, que vous ayez quitté le parti, tout comme d'ailleurs Xavier Bertrand, et ne vous apporteront pas leur suffrage. Est-ce que vous redoutez une élection sous influence qui, au fond, serait en quelque sorte déjà pipée, et on dit même que M. Barnier en serait finalement le favori.
Je fais confiance aux militants et je fais confiance à tous les adhérents, parce que je sais que ce qu'ils veulent, c'est voter pour le meilleur projet pour la France et gagner. Ils veulent battre Emmanuel Macron, ils veulent avoir le candidat qui a l'étoffe d'être le ou la prochaine présidente de la République. Et ça, ils seront guidés par l'intérêt général. Parce que quand vous militez dans un parti politique, vous êtes d'abord guidé par l'intérêt de la France. C'est ça qui vous motive. Pourquoi adhérer à un parti sinon ?
Donc ils veulent gagner. Ils veulent gagner, ils veulent désigner le candidat qui
a le meilleur projet pour la France.
Non, mais d'abord, qui a le plus de chances d'atteindre le second tour, Mme Pécresse.
Ils veulent le meilleur projet pour la France et ils veulent la meilleure personnalité pour l'incarner. C'est comme ça que François Fillon a été choisi en 2016.
Et dans les sondages d'aujourd'hui, c'est Xavier Bertrand qui est le mieux placé.
Mais en 2016, ça n'était pas non plus François Fillon qui était le mieux placé. Mais c'était celui qui avait le projet le plus complet, celui qui parlait le plus à son électorat, celui qui était le plus réformateur et celui qui remettait de l'ordre dans la rue et dans les comptes, comme dirait Édouard
Philippe. Mais c'était une primaire ouverte, ce n'était pas une primaire fermée, comme c'est le cas aujourd'hui.
Est-ce que vous ne faites pas preuve d'un peu d'angélisme ? Vous connaissez les manœuvres d'appareil, vous connaissez parfaitement le parti politique auquel vous allez réadhérer. Vous n'êtes pas un tout petit peu trop candide ?
Je suis tout sauf candide. J'ai moi-même fait la première primaire, je crois, de l'UMP à l'époque.
Ouais, c'était en Ile-de-France.
C'était en Ile-de-France en 2010. D'ailleurs, à l'époque, il y avait 75 000 adhérents à l'UMP sur la région, c'est-à-dire à peu près ce qu'il y a comme adhérents aujourd'hui des Républicains en France. Et c'était une primaire qui avait été assez rude à l'époque, parce que c'était beaucoup moins policier qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, moi, je n'ai pas d'inquiétude. Je pense que nous allons faire une primaire qui sera une primaire très digne, sur le fond, avec vraiment des idées neuves. Et je pense aussi que c'est important de débusquer Emmanuel Macron. Parce qu'il y a encore trop d'électeurs de la droite qui pensent que le bilan d'Emmanuel Macron n'est pas si mauvais. En réalité, la crise Covid fait écran de fumée. Mais le bilan, il est extrêmement mauvais. On a aujourd'hui, en matière de sécurité, une impunité généralisée. En matière d'immigration, des frontières qui sont totalement poreuses. En matière d'islamisme, de l'angélisme. En matière de gestion des dépenses publiques, je vous l'ai dit, une dette colossale qui se traduira en impôts dans le prochain quinquennat, inévitablement. Et tout ça montre un président pusillanime, un président immobile, un président pour presque rien.
Valérie Pécresse, en quoi est-ce que votre candidature est une candidature de femme, au fond ?
Peut-être parce que dans mon projet, il y aura une attention particulière portée aux injustices faites aux femmes. On parlait tout à l'heure de la sécurité. Vous savez qu'un des grands sujets en matière de sécurité, c'est l'explosion des violences conjugales. Aujourd'hui, en Espagne, il y a une procédure judiciaire spécifique pour prévenir les féminicides. En 72 heures, on instruit. En 15 jours, on juge. Eh bien, moi, je le ferai, si je suis présidente de la République, de la même façon, pour protéger les femmes et éviter ces féminicides. Ça fait des années qu'on en parle, on ne fait rien. De la même façon, on parle de pouvoir d'achat. Je viens de me rendre compte qu'il y avait une immense injustice faite aux femmes au moment des séparations. Vous connaissez le principe de la pension alimentaire. À 93%, elle est payée par l'homme, le père, pour subvenir aux besoins de l'enfant. Le père défiscalise la pension alimentaire qu'il verse à sa compagne, à son ex-compagne. La compagne, la mère, elle, ne peut pas fiscalise la pension alimentaire du père. Ça veut dire qu'elle peut perdre des allocations logement, elle peut perdre sa prime d'activité, elle peut passer dans une tranche d'impôt supérieure. Alors que quand les deux étaient en couple, cet argent, évidemment, ne faisait pas l'objet d'une fiscalité. Donc vous vous rendez compte qu'on a une fiscalité en matière de séparation qui pénalise totalement la mère moi, je défiscaliserai les pensions alimentaires pour permettre aux femmes de pouvoir subvenir aux besoins de leurs enfants sans avoir à considérer ça comme un revenu. Et j'ajoute que c'est extrêmement pénalisant pour tous les couples séparés parce qu'aujourd'hui, on le sait bien, le coût de la vie pour un couple séparé est bien plus important. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de choses dans la société française. Je ne reviendrai pas sur les inégalités salariales, mais il y a beaucoup de lois qui ont été votées par les hommes, pour les hommes.
Valérie Pécresse, je voudrais revenir sur la politique. Vous avez parfaitement décrit le poids déclinant de votre formation politique, hein, avec les adhérents en Ile-de-France il y a 10 ans et les adhérents sur toute la France aujourd'hui. Il y a quelqu'un, Éric Zemmour, qui est en train de mordre sur votre électorat. Quand je regarde les enquêtes d'opinion, on voit qu'une partie des électeurs fionistes que vous connaissez bien, vous avez été suffisamment proche de l'ancien Premier ministre, qui se disent tentés, aujourd'hui ça ne se voit pas forcément complètement dans tous les sondages, mais qui se disent tentés par Éric Zemmour, qu'on a du mal à classer entre l'extrême droite et une frange droitière des Républicains. Qu'est-ce que vous dites à ces électeurs qui aujourd'hui sont plus tentés par Éric Zemmour que par Valérie Pécresse, Xavier Bertrand ou d'autres ?
Je leur dis, la droite a perdu un mois à mettre au point son processus de sélection. Aujourd'hui, un vrai débat commence sur le fond, sur les projets. Parlons d'immigration, puisqu'il paraît que c'est un grand thème d'Éric Zemmour ou de Marine Le Pen. Il propose l'immigration zéro. C'est totalement impossible. Personne ne le fera jamais. C'est pas crédible. Donc, qu'est-ce qui est crédible ? La proposition de loi constitutionnelle que j'ai écrite et mise sur la table, que tous les Français peuvent aujourd'hui consulter.
Pour des quotas.
Cette proposition constitutionnelle, c'est le système à la canadienne ou à l'américaine, où on choisit les étrangers qu'on accueille, avec une stratégie de quotas démocratiquement votée par le Parlement chaque année, qui donne la limite des titres de séjour qu'on délivrera aux étudiants, à l'immigration familiale et à l'immigration de travail. Et une fois qu'on les a atteints, on arrête tout, c'est terminé. Et ça permet de reprendre complètement le contrôle de l'immigration aujourd'hui. Ça permet aussi de choisir les pays, ça permet de choisir les zones géographiques et ça permet de faire un donnant-donnant en renégociant tous les accords migratoires avec les pays d'origine, Maghreb, Afrique subsaharienne, en leur disant oui au visa contre des laissez-passer pour que les clandestins qu'on trouve chez nous rentrent chez eux. Donc ça permet de se faire à nouveau respecter. Et cette loi constitutionnelle, dedans, j'ai mis aussi l'impossibilité de toucher des prestations sociales quand on vient en France si on n'a pas 5 ans de résidence régulière en France. Parce que quand on vient en France, c'est pour s'intégrer et travailler. C'est pas pour toucher des allocations. Et on le sait bien, nous sommes l'un des pays les plus généreux d'Europe et c'est pour ça aussi que nous sommes une passoire migratoire. Et enfin, condition pour délivrer les titres de séjour, la maîtrise de la langue française. Parce qu'il est absolument incroyable qu'en Allemagne, il fasse passer un examen d'allemand.
Ça fait des années qu'on l'entend, Mme Pécresse.
Combien d'heures de français ?
Ça fait des années qu'on l'entend, mais ça n'a jamais été appliqué.
Mais parce qu'on le fait à la
droite,
latine.
La droite l'a promis entre 2007 et 2012. Ça a été dans les programmes de peu près tous les candidats. Et
mais on a perdu les élections,
monsieur Zemmour.
Donc comme on a perdu les élections, on n'a pas pu le
mettre en place en 2007.
Oui, mais on n'a pas pu le mettre en place en 2012 et on n'a pas pu le mettre en place en 2017. Maintenant, moi, ma loi, elle est sur la table. Et pour l'instant, vous le savez bien, on l'a fait à la latine. À la latine, les Allemands, ils l'ont fait à l'allemande. L'allemande, c'est 600 heures d'allemand, un examen, et si vous ratez l'examen, pas de titre de séjour.
Vous faites la même chose.
Nous, on fait la même chose. Au lieu de faire à la française, 100 heures de cours de français où il faut juste prouver qu'on est allé au cours. Et c'est la même chose pour les étudiants. Si vos enfants veulent aller étudier en Angleterre, ils doivent réussir le TOEIC ou le TOEFL avec un certain niveau. Ce sera pareil pour les étudiants qu'on accueille en France. Vous savez que quand j'étais ministre, j'ai démantelé des faux réseaux d'étudiants qui venaient s'inscrire et qui ne parlaient pas le français. Donc il faut qu'on soit ferme. Et ce n'est pas, démagogique, ce n'est pas extrême de dire ça, c'est juste faire respecter la France.
Allez, on fait une petite pause. On se retrouve dans un instant avec vous, Valérie Pécresse. On parlera d'Éric Zemmour et du Parti Les Républicains. Y a-t-il un risque d'effacement des Républicains ? Vous nous répondez dans un instant. À tout de suite.
18h-20h sur Europe 1, Punchline, Laurence Ferrari.
Avec Valérie Pécresse qui est notre invitée exceptionnelle ce soir. Valérie Pécresse, Éric Zemmour est-il un adversaire politique pour vous ou pas ?
Avec Éric Zemmour, nous ne partageons ni la même stratégie, ni les mêmes valeurs. Il considère qu'il peut s'allier avec l'extrême droite. Moi, je considère...
Avec la droite aussi, hein ?
Oui, mais avec l'extrême droite. Il considère qu'il peut s'allier avec l'extrême droite. Moi, j'ai construit toute ma carrière politique, tout mon engagement politique contre l'extrême droite. Je suis une gaulliste sincère et le général de Gaulle a construit tout son engagement contre cette extrême droite D'ailleurs, le programme de Mme Le Pen amènerait la France à la faillite et au chaos. Donc à partir du moment, de ce moment-là, je ne peux dire qu'une seule chose, c'est que Éric Zemmour est l'allié objectif de l'extrême droite. Et ce ne sera évidemment pas mon cas. Mais ce que je pense surtout, c'est que c'est la droite qui a les bonnes solutions pour le pays. Parce qu'il ne faut pas parler seulement de diagnostic. Dans le diagnostic d'Éric Zemmour, il y a des tas de choses que je partage. J'ai été l'une des premières à dire qu'il y avait des zones de non-France dans notre pays, à appeler à un plan banlieue, à saisir Emmanuel Macron en lui disant qu'il fallait éradiquer les ghettos, à dire qu'on n'était pas suffisamment armé contre l'islamisme. Donc sur ces sujets-là, sur le diagnostic, il y a des points de convergence. Mais en revanche, sur les solutions, les seules solutions crédibles, ce sont les nôtres.
Mais est-ce qu'Éric Zemmour n'est pas en train de réaliser, parce que c'est vrai que vous connaissez bien forcément l'histoire des droites, Jacques Chirac qui s'oppose aux alliances avec Jean-Marie Le Pen, mais est-ce qu'Éric Zemmour n'est pas en train de dépasser finalement cette période et de réussir, ou en tous les cas de cheminer vers l'union des droites par la base ?
J'ai plutôt
Par les dirigeants et pas par les chefs de parti et pas par les parlementaires.
J'ai plutôt l'impression que le mystère de la division, désormais, il est à l'extrême droite. Parce qu'aujourd'hui, les bisbilles sont entre eux. Alors que la droite a enfin trouvé un chemin pour départager ses candidats et surtout va enfin s'adresser aux Français en direct pour parler projet. Et quand les Français nous auront entendus sur comment, effectivement, on remet de l'ordre dans les comptes et comment on remet de l'ordre dans le pays, je pense que la crédibilité sera chez nous. Les Français se trompent rarement d'élection. Vous l'avez vu aux dernières régionales, dans les sondages, toujours les mêmes, le Front National était donné vainqueur dans pas mal de régions, dans le Grand Est, dans la région Sud, à touche-touche en région Normandie. Et finalement, les résultats ont été en faveur de ceux qui font, de ceux qui font.
Mais avec un taux d'abstention record, et ça n'a pas pu ne pas vous échapper.
Il n'est pas exclu que nous ayons aussi un taux d'abstention record à cette élection présidentielle.
Pourquoi ?
Parce que quand on voit aujourd'hui l'offre politique, on se rend compte qu'il y a un certain nombre de Français qui se détournent de nous. Donc il va falloir faire nos preuves, il va falloir aller les chercher, il va falloir leur dire que toutes les réformes que la droite a promis de faire, elle va les faire. Moi, c'est mon credo, je ferai la réforme de l'assurance chômage, je ferai la réforme des retraites, je ferai la réforme de l'État, je supprimerai 150 000 postes dans l'administration administrante, je débureaucratiserai vraiment. C'est-à-dire, tout ce qu'on a promis, je le ferai. Alors, vous allez me dire, c'est bien joli, vous dites que vous allez le faire, mais pourquoi vous le ferez ? Parce que dans ma région, je l'ai fait.
Mais vous faites le même diagnostic.
J'ai fait 2 milliards d'euros d'économies et je les ai remis dans mes priorités.
Pécresse, quand vous dites le Rassemblement national n'a pas pu l'emporter au régional et il a été balayé, c'est vrai qu'il a fait des scores plutôt très en dessous de ce qu'il réalisait en 2015. 6 régions en tête en 2015, une seule en 2021. Mais c'est exactement le diagnostic que fait Éric Zemmour qui dit Marine Le Pen ne peut pas gagner, donc moi je vais pouvoir y arriver parce que je vais faire l'union des droites par la base.
J'attends les propositions, les solutions aux problèmes portés par Éric Zemmour. Moi, aujourd'hui, j'amène les miennes. Quand je vois que l'école périclite, j'apporte des solutions. Je dis, dès le primaire, on va remettre 2 heures de français, 1 heure de maths, on va mettre le paquet sur les fondamentaux. On ne se satisfera pas du fait que 125 000 mômes sortent du système scolaire sans savoir lire. On ne se satisfera plus du fait qu'on est les derniers en maths de l'Europe. Nous, le grand pays des mathématiques, et on mettra un examen en sixième. Et si cet examen, on le réussit, on fera tout pour que les jeunes le réussissent. Et si on le rate, on rentre en sixième de consolidation parce que le collège unique aujourd'hui est en faillite, parce qu'il y a des décrocheurs qui commencent à décrocher dès la sixième. Et je mettrai en place une réserve éducative nationale avec des professeurs retraités de façon à ce qu'on puisse donner des cours de soutien gratuits à tous ces élèves parce que tous les enfants de France doivent avoir leur chance de réussir. Et ce sursaut national pour l'école...
Le doublement des écoles, des classes, c'est pas suffisant ?
C'est pas suffisant. Ça, c'est une des bonnes choses du gouvernement Macron. Mais ce doublement des classes dans les zones prioritaires ne suffit absolument pas. Aujourd'hui, on a des décrocheurs adolescents qui vont tenir les murs, qui ensuite deviennent des élèves souvent très perturbateurs. Et ces jeunes, on n'en fait rien. Moi, je demande qu'on puisse les détecter immédiatement et qu'on confie aux régions le soin de les réorienter dans des écoles de la deuxième chance, dans des centres de formation en apprentissage. Et je demande que l'apprentissage soit totalement défiscalisé dans les entreprises de moins de 10 salariés pour que les entreprises puissent venir aussi à notre secours pour ce projet de nation éducative que je veux porter. Voilà quelques idées. Et je veux mettre fin au bizutage institutionnel qui consiste à envoyer les plus jeunes profs dans les quartiers les plus difficiles et qui conduit à tarir les vocations d'enseignants aujourd'hui. Je ferai des écoles publiques sous contrat. Des écoles publiques sous contrat avec tout le monde qui sera sous contrat. L'école sera sous contrat avec l'État, donc pourra faire de la pédagogie innovante. Les professeurs seront sous contrat, les élèves seront sous contrat et on les mettra dans les quartiers, les territoires ruraux, dans les quartiers populaires pour avoir la meilleure qualité d'enseignement dans ces territoires. C'est les charter schools suédoises ou britanniques. Ça marche très bien.
Moi, juste qu'on écoute Éric Zemmour, sa position sur l'école, je vais vous faire réagir après. Écoutez-le.
Certaines mesures sont simples et relève du bon sens. D'abord, suspendre les aides sociales pour les familles des élèves qui perturbent gravement les classes. Restaurer la fonction du proviseur, chargé normalement de faire respecter l'ordre dans l'établissement et qui ne le fait plus. Rétablir une sélection plus stricte des enseignants et remettre avant tout la transmission des savoirs au cœur de l'école.
Valérie Pécresse, il n'y a pas un mot que vous retirez ?
Bon, si, d'abord sur les enseignants, le sujet, c'est pas d'augmenter la sélectivité, le sujet, c'est d'augmenter l'attractivité du métier. C'est ce que j'ai dit, je propose la régionalisation des concours de recrutement au CAPES pour qu'on soit pas envoyé bien loin de sa région de cœur dans des quartiers justement prioritaire où on se retrouve avec les classes les plus difficiles et je propose une vraie revalorisation des salaires avec des bonus quand on va dans des quartiers plus difficiles à la fois salariaux et d'ancienneté. Donc à un moment donné, il faudra attirer les meilleurs vers les professions d'enseignants et pas uniquement dire il y a qu'à Faucon, on va augmenter la sélectivité du concours. Aujourd'hui, on a 30% de moins de candidats au CAPES en maths qu'il y a 10 ans. Donc si vous augmentez
avec une note, faut augmenter le salaire des profs.
Non, je dis pas qu'il faut doubler le salaire des profs parce que je ne suis pas démagogue. Je dis au contraire que partout où c'est difficile, il faut que ce soit pris en compte. Partout où les professeurs ont plus de mal, il faut qu'on soit à leur côté. C'est une évidence pour moi. Et par ailleurs, c'est pas des vraies propositions, ce que fait Éric Zemmour, rien n'est concret là-dedans. Rien n'est concret là-dedans.
Votre adversaire, c'est Emmanuel Macron. Il est déjà en pré-campagne.
Il faut vraiment aller débusquer Emmanuel Macron. C'est un président qui a échoué, que nous avons en face de nous. C'est un président qui avait promis de réformer le pays. Il n'a fait aucune des grandes réformes qu'il avait dit qu'il ferait, ni l'assurance chômage, ni les retraites, ni les 120 000 suppressions de postes. Il n'a pas créé les 15 000 places de prison.
Il y a quand même une réforme qui se met en place ce mois-ci.
L'assurance chômage.
Le tout début, puisqu'on a bien compris que la suite, ce sera bien après l'élection, et ça n'est qu'un premier pas. Il faut instaurer la dégressivité.
Sanitaire. Ça a été reporté à cause de la crise sanitaire, l'assurance chômage.
La crise sanitaire permet effectivement à Emmanuel Macron de dire que tout ce qu'il n'a pas fait, c'est à cause de la crise sanitaire.
C'est un peu juste pour vous ?
La crise sanitaire n'empêche pas de rétablir la sécurité, la justice, de mettre en place des vraies règles migratoires, de renvoyer les clandestins chez eux. Non, la crise migratoire a bon dos.
Donc c'est lui votre adversaire aujourd'hui, c'est Emmanuel Macron ?
C'est lui que je veux remplacer, oui.
C'est pas Xavier Bertrand ?
Ah non, moi j'ai pas d'adversaire dans ma famille politique. Dans ma famille politique, il y a d'autres prétendants au titre. Et c'est les militants, les adhérents qui décideront.
Bon jeudi.
Justement, vous allez devoir quand même affronter Xavier Bertrand, Michel Barnier, Éric Ciotti, peut-être Philippe Juvin. C'est quoi, en un mot, votre plus-value par rapport à Xavier Bertrand, qui a été ministre comme vous dans le même gouvernement, ou Michel Barnier, qui a été ministre comme vous dans le même gouvernement, et au fond, vous êtes quand même pas très loin les uns des autres ?
Sans doute mon expérience. Vous savez que j'ai tenu face à la rue pendant 9 mois dans une des réformes les plus compliquées, les plus périlleuses du quinquennat de Nicolas Sarkozy, celle des universités, et que c'est les manifestants qui ont reculé. Et par ailleurs, au-delà de cette expérience de la réforme, j'ai effectivement géré le budget de l'État en pleine crise des dettes souveraines et j'ai fait la plus forte baisse des dépenses de l'État des 10 dernières années. Donc j'ai une vraie expérience et dans ma région, je suis
confrontée à la région la plus criminogène, la plus en risque de séparatisme, la plus en risque de terrorisme.
Mais les militants LR, qu'est-ce que vous leur dites? Vous regrettez d'avoir quitté la famille?
Je leur réponds aujourd'hui, choisissez-moi parce que j'ai les réponses aux problèmes du pays.
Merci Valérie Pécresse d'être venue ce soir dans Punchline, d'avoir inauguré cette formule du Grand Oral. Merci à vous. Demain, c'est Éric Ciotti qui sera à votre place, qui répondra à nos questions. Bonne soirée à vous sur Europe 1. Tout de suite, c'est Mouloud Achour pour Verveine Underground. Et on se retrouve demain à 18h pour Punchline. Bonne soirée.